Et quand je lui ai dit, vous vous rendez compte, en fait, Monsieur Lee, non, appelle-moi Roger. Non, j'y arrive pas, on va dire Monsieur Lee. Quand on lui a demandé, voilà, pour ce que vous représentez pour le hip-hop, vous êtes un fondateur, enfin, vous faites partie des fondateurs, etc., machin. Là, il lui expliquait un petit peu son rôle, quoi. Et, bah, j'ai pas fait ça pour ça, mais merci. Voilà.
Ouais, mais c'est cette humilité.
Non, c'est ça. Non, mais il dit qu'il... Mais, tu vois, ah, on a échangé avec lui sur le fait que, il a, par exemple, il prend l'exemple de Dilla. Qui faisait, tu vois, qui quantisait pas et du coup ça donne un groove spécial, ben lui il a été étonné parce qu'il aurait jamais pensé faire ça. Ouais. Pour lui, l'idée c'est plutôt qu'avec la MPC il a donné un pinceau et après les gens ils ont parlé.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous. Ça va Daz?
Ça va Salman?
Avec ton petit sourire.
C'est monte le son désormais.
Ah oui, je suis toujours friand de tes intros. Oui, et je t'ai dit, moi, le monte le son, j'aime bien hein, parce que c'est le nom du collectif, mais dans le tempo, ça, tu vois.
Bah c'était oui, parce qu'on a changé Musul. Qui est un de nos invités.
Ça t'es va venu dans le tempo,
t'es déjà venu dans le podcast.
Ouais, exactement.
Et on, figure-toi qu'on a changé de nom pour
Mais vous avez changé de pièce aussi.
On a changé de pièce aussi.
On a tout changé.
On a tout changé. On a passé, tu vois, le 100e épisode, on s'est dit, vas-y, révolution.
Et, dans les locus.
Exactement. Bah oui, bah, bon voilà, maintenant que j'ai présenté Musul, Daz,
et bah voilà.
C'est parti pour les invités quand même. Puisque nous n'avons pas un, pas deux, mais trois invités, Daz. Alors ça, c'est incroyable. On a Musul, on a Nick Fury aussi avec nous, et on a Faster J.
Alors, que des légendes, j'ai envie de dire.
En vrai, c'est un beau trio. Pourquoi on les a réunis, Daz? C'est parce qu'il y a un livre qui vient de sortir. Peut-être que tu peux nous le montrer d'ailleurs.
Bien sûr, mon exemplaire.
Here comes the... Il s'appelle Here Comes the Drums. Bah, c'est toi qui l'as écrit, Musul.
C'est moi qui l'ai écrit, c'est nous qui l'avons écrit.
Avec...
Tu vois qu'il y a deux noms, il y a le mien et il y a celui de Da Cockroach, qui n'est pas là ce soir.
Mais qu'on salue.
Voilà, exact, bien évidemment, puisque... Tu sais, on dit sans qui rien n'aurait été possible, ben voilà.
Bah ouais, vous l'avez écrit à deux.
Exactement, ouais, on l'a fait à deux.
Qui a en plus des obligations un peu en ce moment, si j'ai bien compris.
Oui, il a des obligations de paternité, donc
bah voilà.
Il doit être content, mais en même temps, il a mis des priorités bizarres.
C'est double paternité avec
double
le livre.
Double paternité, oui. Oh, le livre arrive en premier, donc il devrait remettre ses priorités un petit peu.
Le timing, quand même, c'est quelque chose. Hein.
Ah ouais. Ça fait
franchement,
deux accouchements, tu vois.
Il y en a un qui a dû être un peu plus douloureux que l'autre, quand même, pour lui en tout cas.
Pour lui,
oui, très probablement.
On parle du livre, évidemment.
Je disais qu'on t'avait déjà reçu parce qu'on avait parlé de P-Funk avec toi pour ton précédent livre.
Clinton,
un de tes précédents livres, ouais, absolument.
Bien sûr. C'était le DLT. J'ai plus de numéro.
Ouais, je sais plus du tout.
Ouais, c'était il y a quelques temps déjà.
Il faisait beau, j'étais en short.
Et pour... oui, donc c'était peut-être l'été.
J'allais être en short aussi, du coup.
Et pour resituer, toi, donc, t'es journaliste musical, tu t'intéresses aux musiques soul, funk, on l'avait vu autour du P-Funk et de George Clinton, mais aussi beaucoup au hip-hop, au rap. Et tu connais d'ailleurs avec Cher les différentes formules de l'émission Get Buzzy en vidéo qu'on connaît depuis quelques années. Et donc, je le disais, ce bouquin qui donc revient un peu sur ces grandes machines qui... D'ailleurs, comment c'est sous-titré, Daz? Tu sais, le bouquin, ça s'exprime bien le truc.
Les machines qui ont fait le hip-hop par ceux qui s'en sont servis.
Exactement. Et il se trouve que ceux qui s'en sont servis, donc t'es allé voir plein de gens, t'as plein de témoignages, je sais pas, presque 70 personnes.
70, ouais. Ouais. L'idée, en fait, du livre, c'était de faire un livre qui... répertorie, ou si on peut dire ça comme ça, les machines qui ont vraiment révolutionné le hip-hop, parce qu'il y en a plein, mais il y en a vraiment qui ont mis des coups d'accélérateur, la TR-808, la SP-12, la MPC-60, tout ça. Donc c'était dans un premier temps de parler de ces machines-là, éventuellement des albums qui ont été faits avec ces machines, des producteurs qui travaillaient qu'avec ces machines, tout ça. Et ensuite, la deuxième partie, c'est de la consacrer avec 70 intervenants qui nous expliquent concrètement comment ils s'y sont mis, comment ils ont découvert les machines. C'est un peu plus compliqué en France, puisque c'est une époque où il n'y a pas Internet, la communication est différente, donc il faut déjà chercher les infos pour savoir comment les mecs aux États-Unis ont produit tout ça. Donc voilà, ça raconte tout ça, les erreurs, les erreurs heureuses. Voilà.
Ce qui est la bonne idée, c'est évidemment de s'être appuyé sur des gens qui ont vécu cette époque, qui ont utilisé ces machines, voire qui les utilisent encore. Dont justement, je disais, Nick Fury, Ahmed, ça va?
Ça va, très bien, et vous?
Bah écoute, content de te recevoir.
Bah écoute, content d'être là, et notamment pour un livre. Moi, j'estime que le fait de transmettre ce savoir-là, sinon si on le fait pas, si c'est pas fait par nous, ce sera fait par quelqu'un qui sera soit approximatif, soit pas fait du tout. Donc moi, je suis en total support face à ce type de
bah oui, d'initiative,
de mise dans le marbre du savoir de cette communauté, quelque part, qui est la communauté hip-hop en réalité, et qui a pas mal de choses à dire et qui a amené pas mal de choses. Et on le voit aujourd'hui avec l'écrasante domination du rap.
Bah, parce que tu parles de la communauté hip-hop, toi, t'en fais partie depuis longtemps. Notamment, on te connaît surtout, je pense que le grand public, entre guillemets, en tout cas, les amateurs de rap te connaissent surtout en tant que rappeur au sein du groupe, du duo La Caution, que tu formes avec ton frère, Hightech. Ce qu'on sait moins, c'est que t'es aussi compositeur, producteur, et notamment, derrière les instrus de La Caution, c'est toi.
Ouais, 99,9%, c'est moi. Et à la base, même pas forcément. À la base, c'était pas forcément une volonté. C'était que quand t'arrives et que t'étais pas connecté, c'est-à-dire d'où tu viens, il y a pas forcément quelqu'un qui a un studio ou qui est déjà beatmaker, etc. Il fallait trouver un moyen, parce que sinon, soit t'allais récupérer les fonds de tiroir d'un mec, ou soit
que des phases B.
Ouais, ou soit que des phases B. Les phases B, ça, au bout d'un moment, pour te structurer, c'est pas le top. Et c'est vrai que, par contre, c'est un peu comme le truc de Obélix, là, je crois. La première fois que j'ai assisté, où j'étais derrière un mec qui était derrière un Cubase en train de faire sa salade, j'ai directement d'une accrocher, mais surtout capter le truc limite un peu de manière un peu comme sur, si t'avais une sorte d'intelligence visuelle du truc qui s'est installée, et à partir de ce moment-là, ça m'a limite possédé, quoi. C'est vraiment le truc qui après...
Tu sais quoi, on en reparlera, ça, des premiers émois avec les machines et tout, celles qui t'ont marqué.
Là, c'est sur Cubase, la première.
C'est vrai,
Non, mais on va prendre le temps, t'inquiète.
J'ai pris route avant.
Et pour rappel, La Caution, c'est notamment un EP qui a marqué les rues électriques. Il y a eu ensuite le double album culte, Peine de mort, Arc-en-ciel pour Daltonia en 2005.
Asphalte hurlante entre les deux.
Absolument, ouais. Et puis, t'as même, toi, alors ça c'est une histoire complètement folle, t'as un tube international à ton actif qui est même.
International, intergalactique.
Intergalactique, qui est apparu même dans un blockbuster hollywoodien, Ocean 12. Enfin, c'est une histoire complètement dingo, ce truc.
Ouais, c'est assez mystérieux parce qu'en fait, il est sans cesse, si tu veux, des courants peuvent se le réapproprier. Là, en ce moment, sur TikTok, etc., c'est tout ce qui est MMA et tout.
Ah ouais, le morceau dont tu étais à la menthe.
Gymnaste.
Une bonne musique pour accompagner un mec qui se fait péter la gueule, quand même.
Je crois bien, alors qu'à la base, il avait été fait et pour un éventuel futur titre de La Caution, et pour le court-métrage avec Taroubi, donc dans le collectif court-métrage, qui s'appelait Taroubi l'Arabe Stray, le court-métrage réalisé par Kim Chapiron à l'époque en mode totalement roots. Mmh. Et ça collait super bien. Taroubi est quelqu'un d'hyper énergétique. C'était un tueur en capoeira. Ça collait vraiment hyper bien. Il y a ce truc-là qui est resté à travers les âges et qui a été, bien sûr, propulsé par le fait que ce soit sur Ocean 12. Ouais. Parce que là, pour le coup, c'est un blog buster énorme, donc ça t'envoie un peu aux quatre coins de la planète.
Bon, Daz, pour ceux qui connaissent pas, t'es la montre, ça ressemble à ça, tout le monde en fait connaît.
Allez.
Bon,
la prod est
classique,
maboule
de chez classique.
Ouais, ouais.
Bon, et on a Daz, une autre légende avec nous.
Vraiment, on s'arrête plus.
En tout cas, Faster J, Mika, ouais. T'es un peu là quand même depuis le début. C'est-à-dire que le hip-hop qui arrive des États-Unis, qui s'installe en France petit à petit, toi, t'as vraiment vécu ça, les débuts du hip-hop.
En fait, ce qu'on a vécu, c'est juste une passion à la base d'aficionados, de jeunes qui veulent écouter du son et qui sont des passionnés et qui cherchent de la galette à tout prix. Parce que nous, notre démarrage, c'est vraiment ça. Et après, ça a continué. Et en fait, c'est le développement et c'est les fondations même du hip-hop qui sont parties de là. Et après, s'en est suivi New Generation MC.
Donc, on est en quelle année à peu près, New Generation MC? Donc, c'est un groupe de rap que tu accompagnes.
On est en 88, 89, 90. Et du coup, c'est qu'en 90 que Rap Attitude 1 sort. Et on écume les scènes d'Île-de-France ou de province ou même en Suisse, parce que ce que je disais, en Suisse, ça a pas mal évolué de ce côté-là à l'époque. Et voilà, ça s'est développé et on était dans le wagon, on va dire, on était dans le train du...
Tu cites cette fameuse compil Rap Attitude qui sort en 91, qui va marquer c'est presque, enfin, le hip-hop, le rap en France existe déjà.
Fondateur,
mais, ouais, mais il y a un truc fondateur avec quand même cette compile. Toi d'ailleurs, t'as bossé sur plusieurs morceaux sur cette compile.
J'étais sur le morceau de Salia et le morceau des New. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, bon, grosse erreur entre guillemets, c'est que le sample arrivait et en fait, au contrôle des machines TR-808-909, on a voulu réintégrer du sample et c'était pas le bon endroit ni le bon moment. Et du coup, ça a foiré. Mais sur Salia, ça donne un petit exercice sympathique, on va dire, sur Enfant du Ghetto, qui est un titre qui encore aujourd'hui reste une petite... pour le rap féminin, ça reste un truc, ça reste une pierre à l'édifice.
Ah, pionnière aussi, Salia.
Et du coup, après, voilà, on a apprivoisé ces machines petit à petit avec l'arrivée des sampleurs. SP12, 1200, 950 et tout ce qui s'ensuit. Quoi.
On en parlera. Et puis, je précise aussi, derrière, donc t'accompagnes beaucoup les New Generation MC. Ensuite, t'intègres Alliance Ethnique avec tes compères Guts, Crazy B, qui sont aussi à la production avec toi. Un morceau comme Respect, par exemple, je crois que t'es mal derrière.
Respect, ouais, tout à fait. Respect, c'est sur Akai, donc c'est sur le 3000.
Il se rappelle bien.
Je me rappelle parce que j'ai même, je crois, encore la disquette. Et du coup, ça part de là avec un sample de Gap Band au niveau de la rythmique et des inspirations, Roberta Flack, des petites brides de guitare, des petits samples de guitare à droite à gauche, des petits samples à la Jungle Brothers. Voilà, tout un truc qui faisait que ça a donné ce que ça a donné avec les featurings de Vinya Moïka, Tribe Called Quest et compagnie. Quoi.
On s'écoute un petit extrait de Respect. Pareil, c'est un tube énorme, tout le monde connaît ça, mais pour se resituer un peu le truc.
L'alliance sera-t-elle?
Mais ça, c'est Paris.
Vinya et Melka. Make it funky.
L'esprit de magie, c'est Respect. C'est bel et bien le morceau Respect, absolument.
L'alliance sera-t-elle mort?
Funky.
Vinya et Melka.
Make it funky.
L'esprit de l'alliance est.
Le sujet est ouvert de manière claire.
Bon, tout le monde connaît ça. Et franchement, Alliance Ethnique, en termes de prod, vous avez bien bossé.
Ouais, mais parce que pareil, c'est une histoire de passion, ça. Et puis Guts surtout aux manettes, avec la SR10, c'est-à-dire qu'on a tout utilisé sur cet album. Et lui, à SR10, avec la fonction boost et sa capacité à pas lâcher le sampler et à aller à fond et à retourner les samples, et c'est ce qui a donné la magie des instrus à l'époque, en fait.
Alors t'as vu Daz, je comprends pourquoi Musul, quand il a écrit son bouquin, il s'est tourné vers Fast J, parce que les machines, ça a l'air de te passionner.
Non, mais c'est passionnant en même temps, c'est comme je sais pas, c'est comme un bouquin qui va te faire kiffer ou un disque que tu vas découvrir et que tu vas vouloir, tu vois, moi je sais pas, il y a le nouveau Pete Rock qui est arrivé, t'as envie de tout écouter, en fait.
Ce qui est marrant, c'est que Dans les inspirations qui sont citées, c'était plutôt new-yorkais.
Ouais,
et le son, au final, il est complètement West Coast, tu vois, avec les synthés et tout.
Ouais, en fait, le son, mon inspiration sur ce titre-là à l'époque, parce que bon, moi, je jouais pas mal DJ à droite à gauche, c'était Jeannet.
Ok.
Et en fait, ce morceau-là, je l'ai fait à partir du... C'était Groove Sing ou Mr. DJ, il y avait deux titres qui tournaient à fond. Et je me suis dit, vas-y, je me tente à trouver une rythmique un peu comme ça, machin. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais après... Pour moi, c'est pas nécessairement le morceau instrumental le plus révélateur de ce qu'il y a dans les albums d'Alliance Ethnique, parce que franchement, il y a des trucs au niveau instru qui sont mortels.
Par la suite, t'as aussi une carrière, tu vas même monter un label, si je dis pas de bêtises, où t'accompagneras Birdie Nam Nam avec Crazy B d'ailleurs. Ouais. Je crois que vous faites même un album de Zwinkels, surtout dans le genre, que vous produisez.
Ouais, on produit le premier EP de Zwinkels.
Ouais.
On le produit pas en musique, mais avec des arrangements de Guts aussi dessus.
Okay.
Et puis, puis s'en suit pas mal de prod. Moi, je produis pour Big Red avec Guts, et puis on réalise.
Sur l'album Big Redemption, je comprends pas qu'on puisse pas avoir cet album de Big Red.
Big Redemption qui est mortel, complètement mortel, et sur lequel on a
avec
fait
avec les portes de Rude Lion.
Ouais, avec les portes de Rude Lion, et avec lequel on fait 4 titres dessus, Vietnam,
Cynique,
Cynique, Délinquance Juvénile, des titres qui sont cool.
Attends, je dois dire un truc sur Alliance Ethnique.
Ça t'a marqué, toi?
Bah, c'était un très bon titre. Moi, je suis très funk, etc. Donc, je kiffais. En termes de rap, c'était pas forcément cette direction sur laquelle j'allais le plus. Ouais. Mais j'avais absolument rien contre tout ce qui était funky dans le rap. Mais je trouve que Kamel, c'était le mec qui avait le mieux fait toute la vibe native tongue en France. Je trouve que
Tribe Called Quest, etc.
Le côté smooth dans la voix et compagnie.
De
et
la soul.
Pas si simple d'un point de vue de rappeur à si tu veux, s'accaparer cette vibe-là et la retransmettre en français. Et je trouve que, et là-dessus, je lui tire mon chapeau parce que c'est vrai que c'était, même si c'était ultra mainstream, on va dire, t'avais vraiment ce côté cossu qui l'amenait justement par la culture. C'est-à-dire que tu sentais vraiment limite une émulation française de la native tongue, quoi.
Ouais, le problème, c'était complètement ça. Ouais.
Le problème, c'est que la France, comme d'habitude.
Bah, on a été ingrat vis-à-vis des.
Pays de connards, ben oui.
Alors c'était que ça a quand même.
Non, après, c'était un carton commercial.
Mais il fallait
ça a marché commercialement.
Ce que c'était avant, c'est que pour ceux qui avaient connu Alliance Ethnique avant que ça signe. Kamel rappait super vite, c'était du truc à la Fouche Nickel. Ouais, on l'entend sur l'album, c'est les Portes du Temps, non, de Sens Unique.
Sens Unique, ouais. On était parti avec Kamel, justement en Suisse à Bienne ou un truc, je crois que c'était. Et en fait, il avait tapé un featuring avec les Suisses de l'époque qui faisaient du Peura Sens Unique et c'était de l'accélération à la Fouche Nickel. Voilà, c'est toute cette période, comme il disait, Native Tongue, où nous, on était à fond, parce que c'est ce qui nous parlait au niveau de nos influences musicales et au niveau aussi du message, de ce que ça véhiculait. Et voilà, nous, on était à fond là-dedans, d'où le fait qu'on a après décidé de faire un featuring avec Vigna. L'ingénieur du son, c'était Bob Power, c'était l'ingénieur du son de La Soul, Tribe Called Quest, etc.
Daz, on va apprendre plein de choses dans cette émission, j'en suis persuadé.
Je vais prendre des notes.
Comme on apprend plein de choses dans ce livre, Here Comes the Drums, alors il faut que je le dise quand même, donc ça sorti ça chez Marabout.
Oui.
Nos amis de Marabout, on salue Benoît d'ailleurs de Marabout. Et franchement, vous avez sorti un beau bouquin parce que c'est du beau papier, il est épais, c'est bien imprimé, c'est très illustré. Même la reliure est de qualité effectivement. Alors, il peut avoir un côté un peu fouillis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de... Donc on s'en prend un peu plein la gueule, mais ce qui est cool, c'est que
c'est pas fouillis parce que c'est par thématique. Je ne te laisserai pas
alors,
dire ça.
Non, en fait, ça peut être un peu abrupt, tu sais quand tu l'ouvres comme ça. Mais vous avez fait un truc malin, c'est que il y a ce côté un peu fiche technique entre guillemets, c'est-à-dire que par machine, il y a quelques chapitres où on s'arrête d'abord sur chaque machine, on rappelle un peu le contexte, qui est le créateur, quelles sont ses qualités, pourquoi elle a marqué, etc. Et puis ensuite, il y a ces témoignages et d'ailleurs, en fait, c'est le cœur du livre, presque, j'ai envie de dire, les témoignages.
Comme il s'est bien rattrapé. Là.
Ouais. Mais les machines, c'était pour savoir de quoi les mecs parlaient, en fait.
Ben oui.
Tu vois, c'est ça aussi. Au départ, comme tu le citais tout à l'heure, Benoît de Marabout, qui nous a beaucoup donné de conseils aussi, même s'il nous a complètement laissé faire ce qu'on voulait. Mais par exemple, au début, on voulait faire les interviews et puis c'était séquencé avec des machines. Ouais. Et après, on s'est dit, effectivement, s'il y a un mec qui parle, tu vois, il a parlé de l'ASR très tôt, mais si l'ASR, tu le retrouves que dans 100 pages après, tu vois. Donc, il a fallu faire d'abord les machines et tout. Après, c'est pareil, on voulait mettre les illustrations à la fin. Et il a dit, ouais, votre truc, ça risque de faire un peu trop catalogue. Oui. Donc, on a séquencé ça autrement.
Là où je parlais du côté fouillis, c'est par exemple, tu sais, ça s'ouvre d'abord, il y a un focus sur Akhenaton. D'ailleurs, ça se ferme ensuite avec un entretien avec Dynasty. Donc, Akhenaton qui ouvre, Dynasty ensuite qui termine. Et puis, en fait c'est qu'il y a plein de petits chapitres, tu sais, comme ça, un peu où on passe à autre chose, entre guillemets. Mais la grande qualité, c'est que ça permet d'avoir un truc assez vivant d'une part.
C'est riche en fait.
Bah ouais. Et par exemple, les témoignages sont croisés. Il y a toute une partie de témoignages croisés où en fait, on a un petit paragraphe de quelqu'un, puis ensuite, comme une narration en fait.
Le visuel que tu montres là, ça a été fait exprès pour. Ouais. C'est pas des.
Donc en tout cas oui, c'est pas, y a pas ce côté catalogue, y a pas ce côté interview sur deux pages de tel type, etc. C'est vraiment tout est plus fluide de cette manière-là. Bah, mais ça fait que voilà, si tu te prends, y a beaucoup d'infos.
Ouais,
quoi.
Ouais, mais si tu veux, la trame qu'on a fait, c'est que pour chaque beatmaker, on a fait on avait une trame d'interview pour que ce soit toujours la même, pour quand après on allait chercher les infos, on s'y retrouve. Et quand on a fait Nick Fury, quand on a fait Faster J, on les a fait sur les mêmes trucs. Puis après, tu t'aperçois que quand tu recoupes tout ce qu'ils ont dit, tu t'aperçois que lui là-bas, ça s'enchaîne vachement bien avec ce que lui vient de dire là. Et puis t'as l'impression qu'ils se répondent. Et puis t'en as qui vont... Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des séquences où t'as l'impression que les mecs sont vraiment ensemble. Ouais. Les seuls qui étaient vraiment ensemble, en fait, c'est Sek et Mars.
Ok. Vous, quand on vous a contacté, quand Musul est venu vous voir, avec Da Cockroach aussi, ils sont venus vous voir et vous dire, voilà, on parle de machines. Nick Fury, Faster J, c'est un truc, vous, le matos, l'aspect technique de la musique, c'est un truc qui vous a toujours passionné. Alors Faster J, on a compris. Nick Fury, toi, c'est...
Ouais, c'est un truc qui m'a toujours passionné, mais pas, sans être un geek, juste pour avoir le minimum syndical pour pouvoir directement me mettre. Parce que c'est vrai que.
C'était pour rapper, tu veux dire ?
En réalité, les machines, elles sont passionnantes parce qu'en soi, elles te permettent à toi tout seul de sortir quelque chose, de devenir un orchestre, en gros, si on veut. Mais le truc, c'est que la première, et je pense qu'on en parlera plus tard, mais la première chose qui se passe, c'est que le budget pour les machines, il définit à quel point tu vas pousser ta machine. Mmh. Et moi, ce truc-là, ma passion pour l'optimisation de tous mes premiers trucs, là, je me dis, mais j'étais un psychopathe parce que je ne pouvais, normalement, il te faudrait 3 ou 4 machines de plus. Et en fait, avec, ça a boosté ma créativité, si tu veux. C'est même limite l'inverse. C'est le fait, le manque, si tu veux, de matériel m'a forcé à comprendre des choses au sein même de ces machines qui te permettent de booster ta créativité. Et ça, c'est vrai que, avec le recul, je me dis, mais heureusement que j'avais pas de thunes, quoi. Heureusement que c'était cher et que j'avais pas de thunes, parce que les tout premiers sampleurs que j'ai eu, où les mecs, ils me laissaient chez eux 20 minutes sur un PC ou un truc comme ça, ça m'a permis d'avoir une sorte d'efficacité mentale sur le truc. Et d'où une certaine, on va dire, nostalgie, voire tendresse pour certaines machines, parce que t'as un côté, t'avais ce débat un peu sur t'es un escroc parce que t'es pas un vrai musicien, entre guillemets, puisque tu sors de la musique, de quelque chose qui n'est pas un instrument à proprement parler, dans lequel tu ne joues ni avec ton souffle, ni avec tes doigts. Et en fin de compte, et je pense qu'on partage cet état d'esprit, en fait, pas du tout, parce que tu crées quand même quelque chose. C'est-à-dire que, à la base, il n'y a rien. Donc, t'arrives dans une machine. Certes, t'es pas un guitariste ou un pianiste, mais t'arrives et à partir de ça, ce qu'il y a dans ton inspiration ou dans ton fort intérieur, il en ressort quelque chose. Et ce truc-là peut devenir vraiment, vraiment hyper passionnant, voire,
obsessionnel.
Complètement obsessionnel. Et pour le coup, moi, je le lis pas totalement au matériel. Je le lis vraiment à ce que le matériel peut te permettre de faire. Mais la réalité, c'est que, on est hyper bien tombé parce qu'on, le matériel que les mecs du hip-hop utilisaient dès le début, ou en tout cas qui venaient peut-être d'autres coins, correspondait parfaitement à l'autodidactie, justement, de ce milieu-là, je trouve. Parce que c'était, tu tapes, tu trucs, il y avait un truc assez
intuitif. Clairement, ont pris le moins cher. Les Sagepo ou des mecs comme Venom, ils ont pris le S01 parce que c'était le moins cher.
Qu'on retrouve tous dans le bouquin, il y a leur témoignage.
Ouais, d'ailleurs, il y a cette petite partie des beatmakers qui sont comme Nick Fury, qui sont à la fois beatmakers et rappeurs. Donc, Nick Fury, on a Flarage, on a Venom, on a Rossé, tu vois, c'est ces mecs qui font beaucoup les deux. Akhenaton aussi, en fin de compte.
Tu nous rappelles d'ailleurs rapidement, alors là, tu viens de citer plusieurs noms, on peut rajouter Sully B. Wax
aussi, ouais.
Malade, Wiz Oxy Mélophilo, quelques noms comme ça encore.
Qui sont dedans, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc Akhenaton, Dynasty, Eric Blaze, Sek et Mars, tout Alliance Ethnique,
hein.
Guts, Kamel, Faster J.
Guts qui s'exprime très peu, hein, t'as de la chance.
Ben, j'ai pas de la chance. qui est-ce qu'on a encore?
Doctorel.
Faflarage, Doctorel, Solo, DJ Clyde.
Ouais.
Comment il s'appelle aussi? DJ Joe, qui était vraiment là au tout début.
Neck plus ultra.
Ouais. Les New Generation MC, pardon, JMG, RMC.
Il y a Pone aussi.
Il y a Pone aussi, qui a contribué aussi un petit peu.
Altarba, qu'on a reçu.
Altarba, absolument.
Matisum, Logilo, Drixé, il y en a 70. Bon. Il y a
tout le monde.
Malparish, Johnny Juice. il y a aussi surtout Roger Lynn, qui est l'inventeur de la MPC.
Ouais.
Avant ça, de la première LM1, qui est la première boîte à rythme programmable
avec un pression de batterie. Si t'es beatmaker et que t'es pas dans le bouquin, quelque part t'as raté un truc dans ta carrière.
Non,
qu'on peut
honnêtement,
dire ça.
Honnêtement, de ceux qu'on a contactés, il y en a aucun qui a dit ouais, ça m'intéresse pas.
Ouais.
À part les Américains qu'on n'a pas réussi tous à toucher, parce qu'ils ont pas tous répondu. On les a pourtant harcelés, puis au bout d'un moment, on a dit bon, on va avancer aussi. Mais les Français, tous ceux qu'on a contactés, on avait une bonne liste, hein, malgré tout.
Ouais,
après, il a fallu s'arrêter.
Après, je pense qu'il faut savoir, et il faut pas oublier quand même un point, c'est que bon, le bouquin est mortel. Moi, je l'ai regardé, je l'ai un petit peu lu, etc. Le truc, c'est que des beatmakers, il y en a eu, et il y en a eu beaucoup, mais pas nécessairement aux bons endroits, et parfois des gens dont on n'a pas parlé. Il faut pas oublier ces mecs en province qui ont commencé, quelle que soit la période, et qui ont œuvré aussi à leur façon, dans leur petite chambre à essayer de faire leur queutru. Et je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces machines, en fait, à la base, c'est soit tu étais perspicace et t'en voulais, parce que la réalité, c'est qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc il fallait que tu t'embrouilles un peu le cerveau avec la machine pour essayer de voir si tu arrivais à obtenir quelque chose qui puisse te
trouver des parades.
Ouais, t'étais obligé parce que t'avais 2 secondes, 5 secondes. Et après, c'est la, quand on parlait de Roger Lynn, il s'avère que c'était du 12 bits. Le 12 bits, c'est un grain spécifique qui fait que c'est crado et que ça c'était complètement en harmonie avec le hip-hop, en fait.
Ouais. En fait, moi, là où je vous rejoins, c'est que je suis de la génération d'après dans la culture hip-hop, comme Nick Fury, je pense. Et en fait, c'est vrai que moi, je vois cette machine. Tu vois, les MPC, tu comprends. T'as les pads, machin, tu comprends, c'est percussif, t'arrives à comprendre ce que tu fais. Là, moi, j'ai l'impression qu'il fallait être électronicien, en fait, pour...
Alors, figure-toi que pour avoir aussi des belles photos de la DMX, ouais, j'ai contacté un gars qui s'appelle Paul White, qui habite à Los Angeles, je crois. Et c'est un fan de la... je sais pas quel âge, il est au moins 70 ans. Ouais. Et c'est un fan de la DMX, mais okay, de la DX, toutes les machines Oberheim. Et il m'a carrément dit, mais qu'est-ce que tu veux, en fait, comme photo? J'ai dit, tu l'ouvres, tu fais des photos dessous, dedans, sur les côtés, et il m'a tout envoyé comme ça.
Il y a...
Non, mais c'est pour il ça, a vraiment fait sur les côtés.
Dans le livre, il y a vraiment...
Ça, tu vois, pour bien situer, là, tu me dis, tu ne te parles pas cette machine, mais à chaque fois, c'est pour bien situer les morceaux qui ont été faits avec.
Oui, ça, tu vois, c'est une super idée. C'est pour chaque machine, tu donnes des exemples de morceaux.
Effectivement, voilà, on est sur Grandmaster Flash, donc ouais, c'est du classique, quoi.
Il y a... Alors, il faut lire le bouquin. Si on va pas citer toutes les machines. De toute façon, comme on l'a dit, c'est hyper riche. Moi, j'encourage vraiment les gens à l'acheter. En plus, c'est un beau bouquin, donc ça vaut le coup de l'acheter.
Ouais, carrément. Un beau cadeau de fin d'année, ça.
Absolument. Mais il y a quand même quelques machines iconiques. Enfin, elles sont toutes iconiques. Mais typiquement, ça s'ouvre sur la TR-808.
Ouais.
Ah. Et en fait, la 808, et après on parlera de l'arrivée des sampleurs. Je sais par exemple que Faster Jet, toi, tu l'as vu, ça a vraiment arrivé.
Ouais, mais ça c'était.
Mais la 808 déjà, est-ce que c'est Musul, pourquoi avoir mis un focus sur cette machine et d'ouvrir avec la 808? C'est presque un peu le son hip-hop, il naît avec la 808?
Ouais, un certain son hip-hop. Parce qu'avant la 808, en fait, on n'est pas encore dans les sonorités comme ça. On est encore sur des. Par exemple, c'est le cas des labels comme Sugar Hill Records qui ont un banc de maison. Et ils repèrent ce qui marche dans les clubs et ils font rejouer au groupe la boucle. Tu vois, donc comme ils l'ont fait avec Rapper's Delight, mais avec plein d'autres trucs.
Ils pompent chic, ils rejouent avec un vrai band et ils rappent dessus.
Ils n'étaient pas les seuls, il y en a plein qui faisaient ça, ou bien des phase B, des choses comme ça, ou des instrus. Et quand arrive la 808 et avec Planet Rock, ça fait complètement désaxer le hip-hop. Quoi. C'est vraiment autre chose et tout le monde suit.
La 808, c'est une boîte à rythme.
Ouais.
Produite par Roland. Ouais. Donc en fait, ça fait que des sons de batterie, entre guillemets.
Alors ça fait des sons de batterie d'une TR-808. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens, le son de la TR-808. Ça,
c'est le son de l'époque.
Oui,
en fait.
Mais je veux dire, si ça ressemble pas à une batterie.
Alors c'était le but un peu initial.
On a traversé les époques.
Ouais,
mais aujourd'hui, on s'en resserre de la TR-808.
Le sub.
Sans même savoir que c'est la TR-808.
Le sub de la TR-808, c'est ce truc qui fait. Un truc qui arrive des tréfonds du mix. Et ça.
Base de la trappe et de la drill. Tout est en 808 aujourd'hui. Ouais.
Le sub de la 808, il a traversé toutes les époques. Après la 808.
Tu
peux pas enregistrer avec. Il n'y a pas de mémoire dessus.
Donc c'est juste que tu programmes des patterns, des motifs qui vont s'enchaîner en enregistre.
Ouais. Mais en fait, on est d'accord que les sons de 808 qu'on connaît aujourd'hui avec la trappe, la drill, etc., c'est que de l'émulation. Il y a très peu de machines directement jouées.
Il faut savoir que la TR-808 aujourd'hui, elle coûte une fortune.
Voilà, c'est ça. D'accord.
C'est-à-dire que tu peux plus l'acheter, en fait.
Donc c'est juste des banques de sons.
Après, il y a les versions Behringer, quoi.
Expliquer un peu la folie de ce mouvement et de ce milieu. C'est-à-dire que c'est devenu des machines collector. Qui valent une fortune. Donc aujourd'hui, c'est que des plugs.
Et tu vois, la photo, là, je sors de chez le. C'est un mec qui a un magasin qui s'appelle Vintage Seat & Co.
Ouais, à Paris.
Ouais, voilà.
Manfred.
Voilà. Ouais. Et j'ai vu qu'il avait des super machines, des super photos. Donc je l'ai appelé plusieurs fois et tout. Ouais, ouais, mais j'ai un petit atelier, machin. Vous voulez faire quoi? Donc on négocie et tout, machin. Puis ça, on avait l'air de le gêner. Je lui ai dit, je peux pas prendre des photos sur ton site puisque j'aurais pas mieux. Et il m'a dit, fais-moi une liste de ce que tu veux et je t'enverrai tout. Et il m'a tout envoyé. Et je sors de chez lui parce que j'en ai fini un, il avait complètement oublié en fait. Alors, j'avais dit je t'en donnerai un pour les photos parce que t'as quand même balancé pas mal de trucs.
Bah oui. C'est, d'ailleurs, on encourage tout le monde à passer aussi chez eux, ils réparent et tout.
Ah, il a un mur avec des petits tiroirs avec tous les composants. Il peut te réparer tes pads de ta SP12, tout.
Incroyable.
Mais c'est intéressant ce que tu viens de. Daz, ce que tu viens de mettre en lumière, c'est que maintenant le mot 808 oui. n'a plus rien à voir avec la boîte à rythme.
Okay.
Parce que les mecs qui s'en servent, ils savent même pas que c'est une
t'as,
machine.
T'as des 808, ça veut dire parce que t'as des subs, les grosses subs, etc. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui vendent des kits, des folders, des dossiers avec plein de subs à différentes octaves, différentes notes, etc. Et ça s'appelle une 808 maintenant.
Ils le savent quand même, la 808, la basse 808, ils voient.
Si la basse, bah, ça, c'était un mec qui s'appelait Frédéric Basse. Et du coup, il a donné son nom au truc.
En fait, moi, je pense que là où je te rejoins, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes beatmakers qui utilisent ça assez fréquemment, mais qui ne savent même pas que.
Ouais. Alors, ils connaissent le nom 808 parce qu'ils savent que leur basse, c'est le 808.
Plugin, tu vois. Ouais, 808, ce son-là.
Ouais. Je ne pense pas qu'il y a. Justement, c'est ça. Peut-être qu'a changé dans l'évolution du hip-hop, notamment maintenant que c'est un art qui est complètement mainstream et majeur, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on va moins avoir l'attachement que vous avez pu avoir avec la machine,
ouais,
vraiment la bécane que tu sors de sa boîte, que tu branches. Et,
On parlera effectivement de la situation aujourd'hui, est-ce que ça s'utilise encore ces machines, etc. Le truc qui est clair tout de suite, c'est qu'effectivement la 808, en tout cas de manière dérivée, mais elle est encore là d'une certaine manière.
Oui, bien sûr, c'est éternel. Ouais.
Parce que ce son de base dont on parle, en fait, c'est un kick initial, et en fait on peut jouer avec le decay, etc. de la machine, et donc en fait modifier le son du kick jusqu'à arriver à avoir un son de basse, et puis ensuite en jouant sur l'octave, effectivement, on peut complètement composer avec ça, quoi.
Après, la machine, elle avait un groove particulier. Ouais.
C'est quoi un groove particulier?
Les hi-hats, ils étaient. Voilà, c'est toute une époque, en fait, la 808 et la 909, parce qu'il ne faut pas oublier de parler de la 909.
Mais je n'ai pas oublié d'en parler.
Attends, juste un peu, parce que
tu as parlé.
Tu as parlé d'un groove particulier, parce que ça c'est intéressant. Parce que.
C'est la couleur de la machine.
T'as un séquenceur multipas, en fait, sur lequel tu peux dire, bon, bah, je veux qu'il y ait un kick là, etc. Donc, tu programmes ta batterie comme ça. Et ensuite, on pourrait se dire, bah, c'est hyper droit, carré, 1, 2, 3, 4, et puis. Chaque truc qui arrive sur le temps pile poil. C'est pas ce qui se passe ?
Ben, c'est ce qui se passe, mais ça dépendait aussi de la façon dont tu l'utilisais.
Okay.
C'est-à-dire que t'avais.
Avec le swing, toi.
T'avais des possibilités de. C'est ce qu'on appelle le TC sur des sampleurs type MPC ou je sais pas, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a. Et en fait, t'avais moyen de pouvoir modifier un peu tout ça.
C'est la quantise.
C'est des formes de quantise. Ouais.
La quantise, elle a été inventée par Roger Lynn après.
Ouais, les horloges MIDI. N'était pas si droite que ça en
tout
réalité.
À fait. Et c'est ça, exactement. Et c'est ce qui faisait, c'est ce qui créait justement ces petites.
Ce groove dont tu parlais. Mmh. Et c'est là où c'était assez intéressant déjà de passer de certaines machines à d'autres. Parce que je pense qu'il y a les deux mots qui peuvent, on va dire, être des catégories et sous lesquelles on peut mettre différentes machines. T'as le groove et le grain. Il y en a qui avaient les deux. Et celle qui avait un séquenceur pouvait disposer d'une sorte de groove assez alambiqué parce que c'était de la t'as vu la machine la Oberheim, la DMX là qui était ouverte, c'est finalement un truc très
électrique, hein.
Ouais, c'est et du coup bah ça peut se décaler à tel ou tel moment,
tu tournes,
etc.
Tu tournes des boutons, en fait.
Ouais, voilà.
Musul, la 808, on comprend qu'elle est. Dès les origines, elle est là. On passe on joue avec des bands derrière, des trucs disco funk, etc. À vraiment, là, on commence à avoir nos propres machines pour faire notre propre son, entre guillemets. Boîte à rythme. Alors, il y a quelques autres boîtes à rythme mythiques, mais il y a surtout un truc qui va tout changer, c'est l'arrivée des sampleurs. Est-ce que c'est un tout petit peu après? C'est à peu près en même temps?
Non, c'est après. Il y a quand même la DMX, mais elle a un côté pas vraiment sampleur, mais dans le sens où sur une DMX, tu peux. La DMX, à l'intérieur de la DMX, tu as des petites puces, des EEPROM, sur lesquelles tu peux enregistrer ton propre son avec une machine qui est commercialisée par Oberheim qui s'appelle le EEPROMer pour enregistrer ton son. Tu peux mettre ce que tu veux, un son de casserole, tu peux mettre ce que tu veux à la place.
Donc ça reste sur une base de boîte à rythme comme la 808, sauf qu'au lieu d'avoir uniquement des sons intégrés déjà dedans, c'est fixe, on pouvait déjà charger des sons.
Tu peux en mettre. Ça, c'est l'amélioration d'une invention de Roger Lynn sur la LM1 qui est beaucoup trop cher. En fait, il fait déjà une Rolls au départ quasiment. Quoi. Mais c'est surtout que...
Qui marche pas du tout, en fait, je crois qu'il...
Voilà, ouais, ouais. Mais c'est surtout avec la Lindrum, où là, il produit une Ferrari, le gars. Mais c'est pareil, elle est trop chère, elle est trop belle, en fait. Quoi. Et donc, il y a déjà ce petit côté... Tu vois, ça, c'est ça, hein, Iprom, là, juste avant. Là.
C'est une illustration dans le livre, là.
J'en ai acheté pour faire des photos.
Ah, c'est les puces mémoire qu'on a, même sur les cartes d'arcade, dans les bornes.
C'est ça,
à
ouais, t'enregistres dessus, c'est le truc qui stocke le son, et derrière un petit écran en vert.
La mémoire.
Et si tu veux le remettre à zéro, tu le mets à la lumière pendant quelques temps, ou bien au soleil, et puis le truc revient à zéro. Ouais, voilà.
Et donc là, parce que la 808...
Excuse-moi, c'est celle-là, l'illustration d'Hightech.
Ah, ok. Parce que la 808, ça sort en 1980, enfin, ça commence à être produit en 1980. La DMX, c'est 81. Donc déjà, tu dis, elle est cette espèce de proto-sampleur qui commence. Et vraiment, le premier sampleur un peu iconique, ça serait lequel à ce moment-là?
C'est la SP12, hein, c'est la SP12, hein. Mais elle n'est pas prévue pour encore. Hein. La SP12, elle est prévue pour, c'est une machine de percussion au départ. Tu peux quand même mettre tes sons, mais c'est pour mettre des sons de batterie, des vrais sons de batterie. Elle n'est pas du tout faite.
Je crois que là, la SP12, c'est quoi? C'est 2 secondes c'est que dalle, quoi, en fait. Et du coup, là, c'est pareil, les mecs qui se sont mis dedans, c'était des inventeurs, c'était des génies, quoi.
Alors précise-nous ça aussi pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des machines, il y a des spécificités techniques, et notamment donc, le sampling, l'échantillonnage, la capacité d'enregistrer des petits bouts sonores, c'est limité, c'est ça que tu nous dis?
Alors là, c'était complètement limité sur ces premières machines. Donc SP12, je crois que c'est 87.
Alors, souvent on parle SP12, mais en fait, après, c'est la 1200.
Ouais. Ça, c'est la 1200.
En fait, la 1200 est venue après la 12.
Ouais, ouais.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la 1200 est l'évolution, donc on peut sampler avec un peu plus de temps. Je sais pas, c'était 4 ou 5 secondes.
Ou 10 secondes.
Ouais, donc c'est 5 sur la première et 10 sur la deuxième, c'est ça. Et en fait, là, tout est question de grain. Cette machine, elle a un grain incroyable. Et en fait, c'est les prémices du futur hip-hop des années 90.
Ok.
Mais aussi quand simplement même que ça, quoi. Les inventeurs, enfin les découvreurs, ils sont du coup vachement contraints par les limitations de la machine. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on parle par exemple des prods de Reza du Wu-Tang, bah lui, c'est parce qu'il a travaillé sur des sampleurs où il avait 2 secondes d'échantillonnage que ses instrus sont saccadés et syncopés comme elles le sont.
Mais il le disait super bien.
C'est ce que je te disais.
Fury, il le disait super bien tout à l'heure. C'est-à-dire que du fait de la limitation,
c'est la contrainte,
dans ta tête, t'étais obligé d'aller super loin, en fait. Ouais, t'étais obligé de te booster, t'étais obligé de te dire bon, faut que j'y aille là, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrive à faire ça parce que j'ai ce truc là dans la tête, mais il faut que j'essaye de le réaliser dans le
morceau. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a du coup le fait de travailler dans l'urgence et d'essayer de travailler vite, qui était une chose déjà, mais c'est surtout, tu te dis, si Reza en fait il était pas tombé sur la SP12 mais sur la 1200, bah peut-être que ces instrus dès le départ auraient pas eu le même goût, en fait, le même flavor, tu vois.
Ouais, c'est possible qu'il ait été dans une autre direction. Il a une vraie vision de la musique, donc je pense que même s'il avait été ailleurs, il y aurait eu quelque chose d'intéressant. Mais il y a un autre truc qui est vachement intéressant avec tous les premiers sampleurs, c'est que certes, t'as pas beaucoup de temps de sample, mais si jamais tu te dis dans ta tête, mais attends, je vais pas tout sampler, j'ai envie de jouer d'un truc. Ou en tout cas, j'ai envie de jouer, acheter 14 synthés, surtout, c'était une blague, c'était impossible. Du coup, tu pouvais, mais par contre, dans la majeure partie des sampleurs, tu pouvais avoir les formes d'ondes de base, qui sont la base même de n'importe quel modulateur, tu vois. Et ces formes d'ondes de base, moi, sans rien, absolument rien y connaître, dans le tout premier sampleur que j'ai eu à moi, si tu veux.
C'était lequel?
Le S2008. I. D'ailleurs, il y avait un I, je ne sais pas pourquoi. Il y avait très très peu de trucs de sample. Par contre, quand tu allumais le Akai S2008, tu avais Sawtooth, Sign, Pulse et Triangle.
Forme d'onde.
Les 4 formes d'ondes. Ouais. Et pour moi, c'était la révolution. Je me suis dit, c'est mon synthé. Sans savoir que les synthés sont faits. J'ai créé, si tu veux, un espèce de synthé avec ça, mélangé parfois à des samples, du coup ça donnait des trucs assez mystérieux, mais la réalité, c'est que c'est ça booste vraiment la créativité, parce que t'as pas le choix quand t'as la profusion d'outils comme il peut y avoir aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pas étonnant que tout soit assez
homogène en termes de
si peu identifiable. Si tu vas
ressemble un peu, hein.
dans
le mainstream, en tout cas.
Même hors du mainstream, beaucoup de choses se ressemblent, même si, bien sûr, il y a des gens que... Mais c'est pas, quand on parle de la généralité, évidemment, on fait pas honneur à ceux qui la découpent, mais la réalité, c'est que c'est quasi naturel, c'est tellement, tellement simple d'acheter même des folders de trucs, t'hallucines ouais, complètement fou, quoi. Ouais, et avec ce truc-là, nous, on n'avait archi pas accès quoi. Mmh. Même à rien, limite, j'ai envie de te dire, à la limite, c'était des DJ. Tu pouvais avoir un truc où tu te dis, bon, bah, mon espèce de montage, je vais le faire sur les platines, parce que c'est un mec qui le faisait un peu de manière bancale. Mais, mais tu veux, t'envoyer un truc, au final, bah, si tu l'avais enregistré, bah, ça tournait en boucle. Mais quand t'as rien, que tu rentres au cul de ton sampleur, t'étais obligé d'être créatif.
Ah, puis il y avait des parades. En fait, nous, on se forçait à essayer de trouver des parades comme aux platines. C'est-à-dire que quand on a commencé aux platines à scratcher, bah, on n'y connaissait rien. On écoutait les mecs et on essayait de refaire ce qu'ils faisaient. Et là, par exemple, pour les sampleurs, ben, on mettait les scuds en 45 tours. Un 33, on le mettait en 45. Exact. Et du coup, bah, ça donnait
pitchait.
Non seulement ça pitchait, et du coup, t'avais plus de contenu. Donc t'avais plus qu'à détuner ou à dépitcher à fond.
Ah, donc t'enregistres en avance
quand
rapide, en fait.
Quand tu détunes, ça prend un espèce de grain assez mystique et en fait, y a un truc intéressant avec ça aussi.
C'est ça, et en fait, voilà la magie, entre guillemets, de cette période et de ces sampleurs. C'est que c'était la démerde. C'était ce qu'on appelle, comme on dit ragamuffin, bah, c'était ragamuffin, il fallait se débrouiller. C'était en mode débrouillard. Et que ça soit Wu-Tang, quoi, que ça soit Première, parce que Premier, il a tout niqué sur tout ce qui est MPC, MPC 60, SP12, parce que lui, c'était vraiment un amateur d'SP12, bah voilà, ça a donné des sons et des grains incroyables.
Il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'on a évoqué la 808. Musul, tu le fais dans le livre, un morceau iconique avec de la 808. Tu nous le dis dans le
livre. Planète Rock, c'est vraiment ce qui fait vriller le hip-hop, en fait.
Bon, même si Africa Bambaataa, depuis, on a appris des choses assez terribles.
C'est un peu gênant. On peut citer Mondronix.
Ah, peut-être... allez.
Par contre, tu vois, de Planète Rock, c'est Arthur Baker qui le produit. Ouais, et pareil, Arthur Baker, j'étais rentré en contact avec lui. Déjà, okay. Il était à Paris à un moment, j'avais essayé de le choper et puis j'avais pas réussi. Et puis finalement, il était OK. Et puis au bout d'un moment, du troisième mail, le mec répond pas. Tu dis bon, voilà, c'est tombé.
Après, il y a du Malcolm McLaren, il y a des trucs de fou de cette période qui sont avec la 808 et la 909.
Mantronix, Needle to the Groove, je crois que c'est à la 808. Ou sinon, un truc iconique, Sexual Healing de Marvin Gaye.
Ah bah ça c'est clair, on s'éloigne du rap, mais pour avoir le son. Ouais. C'est vrai qu'il y a peu de morceaux.
808 dans ce
genre. Ah ouais, ouais, tu vas reconnaître la Cobel, tu la reconnais tellement et tout.
Tu vas voir, et en même temps, Marvin Gaye, c'est aussi les fondations du Peura, quoi. C'est les fondations du hip-hop en même temps.
Tu vois comme ça,
ouais. Stands for Trouble.
Oui, oui.
C'était utilisé dans plein de types de musique. Mais moins de manière identifiable et identifiée, limite volontaire, c'était très hip-hop.
Vas-y, un petit côté sexual
rock, pour moi, c'est l'un des premiers chefs-d'œuvre entre guillemets de la musique rap.
On va s'écouter un extrait de Planète Rock aussi. On commence avec Sexual Healing. Effectivement, on va tout de suite. En plus, les drums sont mis en avant dès le début.
Ouais.
Bon, voilà, c'est la 808.
Ouais, ça c'est clair.
Clairement. Ouais.
J'ai jamais fait le rapprochement.
Il n'y a rien qui ressemble à une batterie là-dedans.
Ouais.
C'est une 808.
Ouais. En fait, moi, je suis tellement sûr, c'est le truc du hip-hop, que tous les trucs de soul ou de R&B qui s'en sont servis, je ne les calculais même pas, en fait.
Alors, c'est marrant parce que dans le livre, tu rappelles que pour les firmes qui développent un peu les boîtes à rythme, etc., au début, c'est surtout vu un truc pour faire de la démo, en fait. C'est pour émuler un batteur de manière, en attendant, entre guillemets, de pouvoir mettre un vrai batteur. Et puis, on essaye de faire un produit qui se rapproche le plus possible du son d'une batterie. Sauf qu'en fait, ça va être complètement détourné, quoi.
Ouais, mais je sais pas si tu... Moi, je sais que mon père, il avait un orgue, avec des boîtes à rythme programmées. Et quand t'appuyais, c'était tout.
C'est là où elles naissent, d'ailleurs, les boîtes à rythme.
Le tempo, ça... C'est tout ce que tu pouvais faire, en fait, tu vois.
Tu racontes que les premières boîtes à rythme, c'est intégré dans les orgues. Ouais. Tu peux pas, d'ailleurs, modifier le motif, c'est uniquement...
C'est le même truc, la vitesse que tu peux modifier. Ouais.
Tu peux modifier la vitesse, ouais.
Et tu dis Roger Lynn...
Et Roger Lynn, qui donc a inventé la première boîte à rythme avec un vrai son de batterie programmable, lui, il est musicien, enfin... Il est ingénieur, mais il aime la musique, etc. Et en fait, il a pas de batteur pour l'accompagner. C'est le seul truc qu'il sait pas faire. Il peut. Et en fait, comme il veut pas de ce son synthétique, il travaille sur une boîte à rythme. Et il fait la LM1. Et c'est lui qui crée, bien sûr, il va pousser ça plus loin après quand il va faire la MPC, mais c'est lui qui crée vraiment le swing, la quantisation et tout ça, ça vient de lui, en fait.
C'est donc, bon, on s'écoute un extrait de Planète Rock. On rappelle juste Africa Bambaataa. Il y a eu le témoignage de Solo, par exemple, récemment, qui a dit avoir été agressé par Africa Bambaataa.
Il parle de choses plus légères dans le bouquin Solo.
Oui, bien sûr, il rappelle ça aussi.
Ouais.
Et donc, c'est quelqu'un qui, malheureusement, a fait des choses terribles. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ce morceau est aussi iconique. Et on s'écoute Planète Rock. We'll be right back. Ce qui est marrant, c'est que ça, j'aime bien que tu aies fait ce lien aussi dans le bouquin, parce que dans le bouquin, il y a le témoignage de Man Parrish qu'on n'a pas encore cité. Il y a aussi quelqu'un de Nucleus, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, Cosmody.
Ouais. Et où en fait, j'adore moi cette époque où on l'entend aussi avec Planet Rock, où en fait, le hip-hop, c'est le son du futur, une musique électronique, mais pleinement assumée. Ça reste dans, après une forme de musique électronique. Mais il y a vraiment, en tout cas, à ce moment-là encore, ce qu'on appellerait, on n'appellerait pas ça du rap presque aujourd'hui ou du hip-hop. Quoi. Bah,
c'est de l'électro.
C'est de l'électro en fait.
En fait, il disait que Cosmody, lui, il disait qu'avec Nucleus, il faisait du street funk avec ça. C'était pas pour eux, c'était pas du hip-hop. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est par le biais de Planet Rock que sort The Message, en fait. Puisque, en fait, c'est la guerre au départ entre les deux labels de rap de l'époque qui tiennent un peu le haut du pavé, Sugar Hill Records et Tommy Boy. Tommy Boy sort ça. Et en fait, tout de suite après, Grandmaster Flash et First Live veulent répliquer. Ils produisent une bombe qui est Scorpio, qui est mortelle. Et sauf qu'avant, elle leur dit, si vous voulez sortir Scorpio, vous sortez ce morceau que vous m'avez fait en démo depuis 2 ans et que personne ne veut. Ouais. Et ils sortent The Message un peu pour sortir Scorpio.
Et ça révolutionne l'histoire
de la
musique.
Et en fait, Scorpio, il arrive derrière, il est mortel, mais le truc, ça fait une petite explosion dans l'arrière-fond, quoi.
On se met un petit, je sais pas, soit entre Nucleus ou Man Parrish, un truc que vous aimez particulièrement. Ah, vous,
c'est
le...
mortel. Hein.
Ouais, le...
Boogie Down Bronx.
Boogie Down, allez. Tu sais, là, on est sur quoi comme boîte à rythme ?
Je crois qu'il fait ça avec une 808 aussi. Hein.
Ok.
Ouais.
Cool John Ski
from
the Free Force Crew. I came here to say a deaf rhyme for you. About the boogie down bronze, it's a one of a kind. It's the place to be, it's a state of mind. About the guys out here, they really are cooking. They snatch gold chains when the cops ain't looking. But Brooklyn, I say, it's the place to be. It's where I stay in reality. So listen close and you all will hear about the... Ça, c'est un truc, quand je me suis intéressé à l'histoire du rap, ça, j'ai adoré ces périodes. Parce que moi qui adore justement le côté funk, électro-funk, etc.
Ce flow-là, on l'a retrouvé partout pendant 10 ans.
Mais maintenant, il y a bien devant ton micro, pardon.
Ce qui est ouf dans ces morceaux-là, c'est qu'ils sont intemporels.
Ouais. Mais ils sont quand même vachement... Enfin, moi j'entends ça, j'avais l'impression d'entendre du Eurythmics, tu vois, quand ça démarre et tout.
C'est vrai.
Tu vois, pour les gens qui ont vraiment grandi avec le hip-hop des années 90, c'est-à-dire vraiment le truc où la musique, c'est ce qu'elle est, en fait, et après... Ouais, ça c'est vraiment c'est dur, tu vois. Moi j'ai du mal. Hein.
Et en même temps, c'est les fondations et surtout.
Ah mais 100%.
Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà hip-hop. Pourquoi ? Parce que c'est le lien avec les autres musiques, ce qui est un truc fondamental dans l'hip-hop à travers le sampling, etc. C'est-à-dire que tout le monde s'est pris Kraftwerk et il y a des liens en fait entre tout ça.
Déjà de toute façon, Planet Rock, c'est un truc qui est rejoué de Kraftwerk en fait. Ouais. Mais Man Parrish raconte, moi je vais pas le raconter là parce que sinon.
Il faut acheter le bouquin.
Man Parrish raconte bien toute la genèse de ce morceau et tu dis mais c'est tout en fait. Tu vois le mec qui rappe dessus, le vocodeur derrière, c'est que pas des erreurs mais des aléas de la vie et du truc, des idées qui germent comme ça quoi. Man Parrish, c'est un super client en interview.
Ah ouais. Ce type de séparation n'existait pas forcément de la même manière qu'aujourd'hui. C'est, par exemple, tu regardes le film avec Ozone et Turbo, Breakin' en anglais, Break Street 84
Break Street
en France.
84, ouais.
En France, la scène mythique du ballet, c'est Tour de France de Kraftwerk, justement. Et tout le monde pense que c'est limite un... DJ hip-hop ou un truc,
une prod d'un mec hip-hop.
T'as Chris de Glove Taylor avec Ice-T qui rappe sur le... Mais l'important à ce moment-là, c'est le DJ, parce que c'est là où il y avait aussi historiquement une sorte de... Au tout début, le DJ était beaucoup plus important que le MC. Le MC était le mec... Et toi, tu parles vraiment de l'époque, ça, la génération... Ouais. Où tout était au service du MC, donc du coup même la prod, ça se voyait que c'était mille fois plus travaillé pour c'est moins fait pour faire bouger et danser, c'est plus pour que le mec vienne et
ait
la classe, etc.
Ouais.
C'est vrai que dans la philosophie, mais les deux font partie de cet historique hip-hop, sauf que à partir du moment où on a cloisonné le truc, parce que le hip-hop s'est défini par un son. Notamment, bon, je vais caricaturer, hein, mais le moment où c'est gros sample, beat, basse, gros sample, etc., aux alentours de 90 BPM, la vitesse, etc. À partir de ce moment-là, t'as eu des sortes d'ayatollahs qu'on dit c'est ça, et du coup, quand on est arrivé avec un truc qui justement faisait honneur à ce qui. Nous, on était tout petits l'époque, Kraftwerk, même Breakin', tout ça, mais ça nous a tellement marqué qu'on l'a remis au goût du jour dans notre manière de composer un hip-hop, donc purement moderne, entre guillemets. Et les mecs hallucinaient et nous posaient exactement les mêmes questions. Je me rappelle de Posca qui DJ Posca. Lui passe un grand bonjour.
Bien sûr.
Et qui à l'émission disait ouais putain c'est top le problème sur les rues électriques, ça ouais il y a un côté Daft Punk, ça ressemble à c'est en gros le mec nous mettait dans une catégorie. Il savait qu'on rappelle, c'était pas genre malveillant, mais c'était le fait que l'apport de l'électro qui était à la base entre guillemets du hip-hop
avait disparu,
complètement disparu de l'historique du truc.
Ça, quand on voit par exemple le documentaire sur la carrière de DJ Mehdi, c'est un peu ça. Quand le 113 ils se sont mis à rapper sur des beats électro, les gens ils étaient en mode ah ouais, vous êtes des mecs des soirées en fait, tu vois, parce que ça sortait du paradigme justement sample de violon piano triste.
Après, je pense même à un mec récent comme Laylo, qui aussi s'est interrogé ce rapport. Alors c'est de plus en plus accepté,
puis il joue vraiment sur le côté, je suis un robot.
C'est bien parce que justement quand il parlait Fury, je pensais à Mehdi en même temps. Et Mehdi, il a toujours eu cette ouverture.
Ah, complètement.
Il a toujours eu cet état d'esprit funk, soul, hip-hop, électro. Et il avait pas de
barrière.
Je me rappelle des discussions que j'avais avec lui, il avait pas de frontières dans sa tête. Et en fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on écoutait du son, puis on s'en foutait de poser des frontières, de poser des barrières. On écoutait du son, on s'inspirait du son, et c'est ce qui nous faisait avancer. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où les mecs étaient devenus un petit peu trop des purs et durs.
Je vais dire les termes.
C'était pas la réalité en fin de compte.
Je vais dire les termes parce que moi j'ai pas peur de me griller au sein
ça va dénoncer.
Quand je disais tout à l'heure que la France était un pays de connards, en fait, il y a énormément de MC, notamment dans les années 90, qui avaient juste zéro culture musicale, zéro curiosité. Eux, tout ce qu'ils demandaient à leur beatmaker, à leur DJ, c'était de refaire des sons de Mobb Deep, ou de refaire des sons de Nas, ou de refaire des sons de New York, en fait. Et donc, quand t'avais un mec comme DJ Mehdi qui arrivait et qui proposait de la création, en fait, les mecs en face, ils n'étaient pas mentalement câblés pour comprendre, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve bien avec le documentaire qui retrace un petit peu son parcours, c'est que quand ils interrogent Mokobé notamment et Kerry, donc de la mafia Kinfri, les mecs sont honnêtes. Et ils disent, tu vois, parce qu'ils auraient pu dire, a posteriori, ils auraient pu dire, ouais, nous, on adorait ce truc-là, on était très ouverts. Non, ils disent, le mec, il nous ramène des trucs, on connaît même pas les Beatles, on sait pas c'est qui, non, on s'en bat les couilles, tu vois. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça super cool qu'ils le reconnaissent.
Ouais, parce que c'est des mecs complètement intègres, déjà, qui parlent. Et en fait, dans cette intégrité, ils pouvaient que dire ce qui s'était passé réellement. Ouais. Et en fait, c'est clairement Mehdi qui a ramené ça. Et eux,
ils n'ont pas compris.
Ils ont acquiescé, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont dit, vas-y, ok, on va tester, on comprend pas trop ce que tu veux.
Ce qui montre qu'ils n'étaient pas si obtus, d'ailleurs, parce qu'ils ont accepté au final.
Mais parce qu'ils étaient, en fait, ils étaient ouverts. Moi, je les ai fréquentés à un moment aussi. Et c'était des mecs ouverts, c'est des mecs qui avaient envie d'aller de l'avant. Et regarde le carton que ça a fait, quoi.
Alors attendez, parce que là, on a cité Nick Fury, après tu reprendras la parole, Ahmed. Mais t'as cité les rues électriques pour ce rapport électro, rap, etc. Ce retour aux sources, d'une certaine manière. On s'écoute un petit extrait.
Ah oui,
plaisir.
Allez.
C'est là qu'on ponctue
Noctan, bus Noctan,
flow acupunctue
Jactan, bouge Jactan,
flou. Puisqu'à cette période tu danses plus le disco, j'suis l'érudit dans les rues de San Francisco. Ici seul les V6 vide dans les caves ici. Les récits parlent du mal, t'en perds tes cheveux, c'est la calvitie.
J'veux plus de, j'en ai ma claque de marcher dans le bloc, dans ma tête trop bleu et black. Cause des accidents, panique de voir mon sang gicler. Les cernes, les merdes, les blocs, les glandes annihilées. Fumer mon large
le
niglet.
Général, crash générateur, généreux, flash accélérateur. J'aime le jeu, les casinos, j'accentue le jackpot, j'actionne la chance. Dans ce casino, la scarne fraîche, cautionneur, sanctionneur. J'joue jeu de hasard, c'est le bazar, des couilles dans le bazar. Et alors, les gommés à bar, loin de la fac, de Harvard, point de lavage de toxines, gavage de crâne, de rage toxique, la fumée reste. Et alors, les halls, les murs, les desks, les caves.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand notre univers c'est as?
Le tag, le graph, le rap, le break.
On garde notre âge pour ne pas qu'on nous baise.
Les halls, les murs, les desks, les caves.
Ouais, ça a marqué hein, ce morceau.
Tu sais,
ouais,
il est mortel. J'ai entendu ça sur Nova en voiture. Ouais. Je me dis, oh là là, il se passe trop de choses dans la musique et dans le rap. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir réécouter ça 25 fois. Et en plus, c'était une époque où tu pouvais pas aller le rechercher sur internet, quoi. Donc,
Tu t'es bien pris la tête et franchement, l'instru, il est chambé, quoi.
Merci. Mais tu sais, le truc pour nous, en réalité, c'était complètement naturel. Parce qu'il y a un truc nous, c'est un non-dit parce qu'on se comprend, parce qu'on a vécu à peu près le même rapport à à ce courant musical qui arrivait de nulle part, quelque part. Mais les gens ne le voient pas de l'extérieur. En fait, le hip-hop, c'est vraiment une sorte de musique assez cannibale, en vrai. Mmh. Tu pouvais tout rendre hip-hop. Tu parlais de bout de casserole que tu fous dans dans ton sampleur ou ce que tu veux. En réalité, c'est ce que t'en fais après. Et c'est en ça que c'est devenu un truc ultra créatif et qui a, limite, de manière assez logique, même reboosté la musique parce que tout était très académique. Je fais du rock, je fais une balade rock, c'est mon background, c'est les Beatles et compagnie. Je fais du metal dur, mon background, c'est ceci. Je fais du, je sais pas, n'importe quel type de musique était très codifié. Cette musique-là, elle est arrivée. Et
c'est protéiforme, en fait.
Envoie la sauce. Et donc, du coup, t'avais un mec qui pouvait sampler du classique, comme un autre, d'une sorte de cold wave, ou de ce que tu veux. Et ce truc-là était la dernière, je pense, révolution musicale. C'est cette utilisation d'un peu tout, cette hybridation, qui aujourd'hui est à son apogée parce que Internet a permis à ce qu'un gamin qui est un surfeur, je sais pas moi, sur la côte ouest américaine, mais il produit un truc avec des rythmiques type afro, etc., parce que ça a tout ouvert, mais à la base t'avais des illuminés qui font pour la plupart partie de la musique hip-hop, ou alors on va dire, on va quand même dans l'électronica ou dans l'électro, t'avais des mecs qui avaient aussi cette vibe là mais qui étaient des explorateurs avec peu et qui ont réussi à casser ces barrières là et c'est en ça que ces machines là deviennent hyper importantes. C'est parce qu'en fait, elles ont à chacune dressé, si tu veux, tout un pan de l'évolution de cette manière d'être créatif. Et c'est là où c'est hyper intéressant de pouvoir le recenser de manière assez, on va dire, structurée, comme l'a fait Musul à travers le livre. Et c'est là où c'est fort, parce que c'est
d'une part évident. Et d'un concroche.
Ouais, et d'un concroche, à qui on passe un bonjour. Et d'ailleurs, qui fait partie de ceux qui font pérenniser un peu la culture à travers ces livres aussi, quoi.
On n'avait pas parlé de la DMX, mais c'est ce qui a fait le son quand on en parlait. C'est ce qui a fait le son des premiers Run-DMC.
C'est de la DMX.
Et là, je profite pour ce que Fury disait, que par rapport que Daco Croche fait aussi perdurer le truc à travers ses livres, c'est qu'il a fait d'autres bouquins avant qu'on collabore ensemble. Il a fait 6 Million Ways to Dig, où en fait il avait contacté une centaine de passionnés de hip-hop qui racontaient leur album préféré. T'étais dedans, toi, je crois.
Je suis dedans et justement je parle de Run-DMC, King of Rock.
Et le deuxième, c'était We Can Be Stopped, où là c'était des passionnés aussi qui racontaient une anecdote par rapport au rap ou à la musique. Mais ça, c'est des trucs qu'il avait fait en indé, complètement en indé.
Attends, si je peux me permettre juste un truc, justement sur Run-DMC, parce que moi je pense, si j'ai capté que j'étais nul quand je copiais quelqu'un en termes de beatmaking, si par exemple je kiffais ce morceau de premier, j'essayais de faire du claquer au sol, j'essayais de refaire je sais pas moi n'importe quel beat que j'essayais de refaire de quelqu'un,
ça marchait pas.
En fait, quand je suis nul, c'est que ça s'écoutait, mais ça allait pas du tout dépasser le truc.
C'était pas toi, en fait.
Voilà. Et à partir du moment où je me suis dit, bon, écoute, autant faire le vrai truc qui te correspond, c'est là où j'ai commencé à avoir quelques skills. Et en fait, je me rendais compte que pendant hyper longtemps, j'étais vachement influencé inconsciemment par Rick Rubin, mais qu'en fait j'avais fait une erreur jeune, je pensais que c'était lui qui avait produit les albums de Run-DMC, et en fait c'est pas lui,
Larry Smith.
C'est exactement et Larry Smith, c'est un putain de génie qui produisait Houdini, etc., jusqu'à des trucs ultra rock, notamment pour Run-DMC. Et ce truc là je me suis dit, mais attends, parce que ça c'est le son qui m'a mis moi dans le hip hop. Je suis uniquement funk, soul, etc. King of Rock, je sors de nulle part et me dit, ça y est, c'est ce truc-là que c'est ça la musique. Mais même c'est ça le meilleur truc qui existe, etc. Et pourtant, c'est du cœuro avec des mecs qui kickent dessus. Et c'est là où je me suis dit, en réalité, mon mentor caché quelque part, c'est Larry Smith de Houdini, justement.
Et sur l'album Raising Hell, c'est beaucoup David DMX qui fait le bien nommé David DMX, donc qui fait de la DMX. Ouais. Mais lui, il fait de la basse, de la guitare, tout ça, et il est derrière des trucs de Public Enemy aussi.
Et qui a aussi révolutionné la deuxième génération de beat, de son de batterie dans le rap, les grosses drums, etc.
Il faut, tu parles de révolution, il faut qu'on revienne. Là, on a un peu parlé des boîtes à rythme, mine de rien, mais la révolution SP12, SP1200, le sampler, il faut qu'on en parle un peu plus. Est-ce que, alors, Nick Fury, t'as parlé d'un grain, ou je sais plus qui disait, c'est le grain new-yorkais, celui qui va ensuite va influencer tout le monde. Est-ce que, Musul, c'est quoi ce grain new-yorkais? Est-ce que t'as quelques exemples de morceaux? Et
c'est ce qui vraiment redéfinit quand même beaucoup le rap dans les années 90, c'est le combo, la SP12 et le S950, ou 900. Alors, en gros, la SP12, elle a un très bon, on va pas rentrer dans les trucs techniques, mais elle a un très bon séquenceur en fait. Okay. Donc les beatmakers se servent de la SP12 pour avoir le beat.
Alors donc, déjà on a des pads sur la SP12, si ouais. Je dis pas de bêtises, qui te permettent de dire tu peux jouer tes patterns, tes motifs, et un séquenceur intégré, donc tu peux les enregistrer, les boucler, etc.
C'est ça.
Et quand tu parles de SP12, c'est 12 ou
1200? 1200, ouais.
Okay.
Et en fait, ils se servent de la SP12 pour le beat, mais ensuite, elle sert de séquenceur à aller déclencher les samples qui sont dans le S950 et qui a une meilleure qualité.
C'est quoi le S950?
C'est un truc Akai en rack.
C'est ça, là.
Pas du tout sympa. Enfin, pas du tout sympa. Tu vois, c'est un rack. C'est fait pour être en studio, pour être mis en rack comme ça. C'est un tout petit écran.
Moche, en fait, à la base. Ouais. C'est complètement détourné, en fait.
Tu découpes des valeurs, tu vois, des valeurs numériques, c'est ton sample. Et puis après, bon, sur le S950, t'as ce qui s'appelle... l'enveloppe, c'est-à-dire que attaque, sustain, decay, etc.
Ah, comme sur le synthétiseur.
Voilà, et tu peux jouer dans ton sample après, encore le modifier encore à l'intérieur.
Donc c'est vrai que c'est assez austère comme.
Ouais. Et donc avec le combo SP1200 et S950, t'as les Tribe Called Quest qui sont faits comme ça, les Gangstar qui sont faits comme ça, Pitrock et NCL Smooth sont faits comme ça. Enfin, il y en a plein.
Un morceau.
Franchement, l'album de Gangstar, World Eye Manifest, ouais. Est mortel.
Alors moi, j'adore un morceau, mais t'as le droit de le mettre. Ouais. C'est Words from the Abstract de... Non, c'est pas Words from the Abstract, c'est Verses from the Abstract sur l'album Law and Theory de...
Avec Virginia
Monica. Ouais, avec Virginia Monica, justement.
Ouais, ouais, ouais.
Alors attends, mais que monsieur, mais lui,
non, mais c'est voilà. Bah, c'est
on peut écouter un extrait des deux rapidos.
Là, on est vraiment dans l'époque où ça commence, quoi. C'est 90s à toute patate, quoi.
Bon, on commence avec le Tribe Called Quest et après on écoute ton extrait Faster J.
Mon man came by the studio.
C'est un morceau.
And his name is Busta Rhymes in effect. Shaheed is in effect. Fife Diddog is in effect. Check it out and give me my spec. I'm moving, yes, I'm moving, cause my mouth is on the motor. Use the coast in the morning to avoid the funky odor. Can't help being funky, I'm the funky abstract brother. Funky in the sense, but I play the undercover. Once had a fetish for some booty. Now I'm getting funky in my rapping, that's my duty. Brothers tend to jock on a style in particular. If you got the ego like some brothers, then I'll get with you. But if I don't pursue, then I just don't give a f. My motto in the 90s is be happy making ducks.
Toi, Faster Jet, tu voulais écouter quoi? Ouais, c'est marrant.
Ouais, ce morceau, ouais, c'est Ron Carter à la basse.
Incroyable.
Ouais, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que le S950, la SP1200 garde une bonne patate sur le beat. Mm. Et après, ça peut te permettre de déclencher des samples qui, eux, sont moins granuleux et moins dégradés, comme le peut avoir la S. Comme
fait, la SP1200. Clairement, c'est une contrebasse, donc Ron Carter, donc très grand jazzman. Et une rythmique à la SP12 et un petit sample derrière qui doit être déclenché par la 950 de l'époque. Donc c'est ça en fait, là on est dans l'essence même de l'essence et la naissance de l'évolution même du hip-hop, quoi.
T'as utilisé toi ces machines?
Moi j'ai utilisé la 950 et après je suis passé au 1000 et au 3000.
Naissance, c'est marrant parce que moi j'écoutais cet album justement. C'est quand ma fille était née, quand elle était encore petite et qu'il fallait se lever de bonne heure, de très bonne heure le week-end. C'était le disque que je mettais, tu vois, pour avoir de la musique, mais pas un truc trop patate quand même, parce que t'avais quand même un enfant. C'était ce disque.
Le morceau que tu voulais écouter, Faster Jazz, c'était quoi? Rappelle-moi.
Non, c'est l'album de Gangstar, World of I Manifest. C'était le premier album.
T'as éventuellement un morceau précis sur l'album?
Il y a le morceau de première qui est mortel, qui est Deep Concentration. Qui défonce et là il fait tout en mode platine avec des samples, il reprend Phase O de mémoire. Cool and the Gang, ouais.
Here's a little story that must be told.
C'est lui qui a d'ailleurs, non?
Ouais, y'en a.
Mika, Faster Jed.
Tu es génie du mec là quand même.
C'est déjà. C'est Summer Madness de Cool and the Gang.
On oublie souvent, mais ça fait partie de la musique de Rocky.
Ah bon ? Ah
ouais ? Exactement, quand il invite Adrian chez lui, quand il commence à succomber, c'est ça qui passe derrière.
Ah ouais. Right.
Cette histoire de grain dont on parle depuis tout à l'heure, on parle des limitations de la machine, etc. En fait, le grain, est-ce que je dis une bêtise ou c'est la machine détériore le son d'une certaine manière,
bah, oui.
Mais en fait, elle le détériore d'une manière qu'on trouve musicale. C'est ça, si j'ai bien compris?
Mais non, mais en fait, à l'époque, clairement, les mecs commencent à sampler sur des vieux scuds, donc ils ne sont pas nécessairement de bonne qualité. Donc déjà, à la base, les scuds ont un certain grain. Mmh. Alors, ils pouvaient sampler sur des 45 tours, donc forcément, le son était moins bon que quand ils samplaient dans un album ou dans un maxi. Et du coup, en se servant de cette matière première, parce que c'est ça la matière première, ben il le samplait, il le mettait dans un 950. Et le 950, c'était, il fallait savoir que c'était du 12 bits. Et en fait, ça venait un peu compresser le son, cradifier le son.
On perd des données, comme on le numérise.
On perd pas vraiment.
Non, mais il y a surtout l'utilisation sur le S950 du filtre passe-bas.
Exactement. Et en fait, lui, il suffisait de tourner un peu de filtrer. Et là, la basse ressortait. Mmh. C'est-à-dire que les aigus. Alors, ça dépendait comment tu réglais ton truc, mais. Et en fait, c'est ça le son. En fait.
Ça enlève des fréquences, ça enlève les fréquences aiguës pour garder vraiment
tout ce qu'il y a avec.
C'est l'effet qu'on a aujourd'hui qu'on appelle le beat crushing, en fait, où tu choisis le niveau d'échantillonnage.
Ouais, tu baisses le nombre de bits.
Quand tu le passes en
jusqu'à une saturation, d'ailleurs.
Mais moi, je pense que volontairement, c'est aussi une couleur que tu pouvais vouloir donner. Et qui nécessitait peut-être d'utiliser telle ou telle machine. Mais juste vite fait, je fais une petite parenthèse, je reviens sur la SP12, parce que certes, les exemples sont très bons qui ont été cités, mais pour une époque limite plus... pour plein de gens, ce qui est plus caractéristique de la SP12, c'est par exemple un beatmaker comme Easy Mobi. Quand t'entends ou Marley Marl, quand t'entends c'est là où ça redéfinit la manière de, parce que tu vois avec les 808 etc, la qualité des éléments de beat, elle est sensiblement pareille, elle est pas si importante que ça, bien sûr elle l'est, mais elle est pas si, à partir du moment où Easy Mobi, Marley Marl, ce type de Diamond D, ce type de mec arrive, et il y a très peu de choses en matière de sample et de mélodie, Pete Rock bien sûr, et qu'en fait le grain du kick et de la caisse claire et du charlet, etc., donne un truc massif qui donne direct envie de bouger la tête, et où l'aspect mélodique ou orchestre devient moindre parce que le beat est ultra fat. À partir de ce moment-là, c'est la course à comment je peux avoir cette sonorité sur ce kick, sur ce truc, et qui était devenu le nerf de la guerre pour pas que ton son sonne en fait, en tout sec.
Ça m'évoque un entretien. Est-ce que c'est toi, Faster Day? Je sais plus, je crois que c'est autour des New Generation MC, où ils racontent qu'à la base, ils bossaient juste avec des machines, pas encore avec du sample, et qu'en fait, ils avaient un tout petit son, un son tout casse, effectivement, et tout d'un coup, le sampling est arrivé. Alors, est-ce que je délire? C'est
non,
peut-être quelqu'un.
Non. Nous, la problématique qu'on a eue, c'est justement qu'ils savaient vraiment. RM et Roger, ils savaient vraiment utiliser la 808 et la 909. Ils l'utilisaient hyper bien et ça fonctionnait à fond en concert et ça cartonnait. Le truc, c'est que quand on est passé au sample, on ne contrôlait pas du tout les sampleurs. Et du coup, cette fusion, elle a pas fonctionné. Et justement, quand tu regardes le hip-hop des 80s et des 90s, tu as plein de groupes qui ont disparu. Et c'est malheureusement ce qui s'est un peu passé aussi.
Ils n'ont pas réussi à s'adapter au sampling, entre guillemets.
Exactement.
Mais est-ce que quand même, il y a eu un...
Ouais. C'est quand même incroyable de se dire que si tu n'arrivais pas à t'adapter à genre, la technologie en vigueur... tu pouvais être effacé, parce que c'est quelque chose que tu fais pas à un guitariste, tu vois. Le mec, même s'il joue pas sur la dernière Fender machin, on s'en fout, il a quand même un son de guitare.
Ouais, mais en fait, comme il disait Fury, c'est que en fait ça évoque des périodes, tout ça. Et en fait, quand on parle de Marley Marl, bon, Marley Marl, Pete Rock, il est allé voir Marley Marl et il était à fond avec son émission de radio, etc. Et Pete Rock, il a commencé grâce à Marley Marl, Diamond D, etc. Et en fait, les mecs, comme il disait exactement, ils ont commencé à mettre des caisses claires qui frappaient, mais qui frappaient vraiment. En fait, ils ont réinventé le son à partir du son. Mmh. Et en fait, c'est une évolution. C'est-à-dire qu'on on avance depuis tout à l'heure par palier. Et en fait, c'est palier par palier.
Mais se dire que genre, si t'es pas dans le palier, bah, du coup, t'existes plus.
Ben, parce que c'est devenu...
Tu sonnes petit, cheap.
Après, ça devient des phénomènes de mode. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient un son... Bah, il fallait entre guillemets suivre le truc, mais tu pouvais aussi toi être novateur, et c'est ça aussi qui a créé des groupes et qui a créé des purs producteurs. Il parlait d'Easy Mobi tout à l'heure, qui était voilà, qui était un pur producteur.
Qui a produit pour qui Easy Mobi? Moi je le connais pas bien.
Tout le monde. Easy Mobi, Flavimes, Notorious, Flavin Yair,
Craig Mack,
Craig Mack, ouais. Mais si tu regardes bien, c'est là où tu vois que l'ouvrage est vrai. Félicitations à Musul pour la manière dont il est agencé.
Et à
Cockroach, ouais, désolé, mais c'est comme t'es là. Mais c'est que au final, on déroule quasiment l'historique d'un mouvement musical au travers de l'utilisation de certaines machines. Ouais. Et cette chronologie-là, elle est hyper importante. Et c'est pour ça que, en tout début d'émission, je trouvais ça hyper important que ce soit des gens comme nous, Faster, Musul, et que vous nous donniez la parole sur ce genre de choses-là. Parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et que cette académisation de l'histoire du hip-hop ou de la manière de faire, très souvent, elle est faite par des gens qui sont spectateurs, ou en tout cas des gens qui peut-être même on fait le job, hein, sans forcément leur envoyer la voix, mais que là de l'intérieur t'as des choses, bah, par exemple parler de grains, c'est un des trucs où très peu de gens externes au fait de faire du beatmaking, etc., peuvent capter vraiment le truc. Bien sûr, il y a une catégorie de fans, entre guillemets, qui a une oreille supérieure, entre guillemets, et qui peut capter ce truc-là, dont on fait partie, hein, puisque nous aussi, on est fans d'autres musiques, etc. Mais ce truc-là, il est essentiel, parce que tu disais, je sais plus quel exemple, les gens disaient, ouais, ça sonne tout sec, mon truc. Ça, c'est pour un beatmaker... et pour la domestication de sa machine ou le choix même de sa machine, c'est complètement essentiel. Parce que l'aspect mélodique, au final, les enchaînements de notes ont presque tous été faits, que ce soit dans le classique ou un peu partout. Tu ne vas que refaire, c'est une sorte de mathématique, hein, ça plus ça égale ça. Et tu ne vas que refaire. Ouais, voilà. Et quand tu refais, c'est comment ça sonne qui devient ultra important. Et par exemple, nous...
Comment ça sonne dans une voiture même, des fois.
Ouais, mais à la limite, quand c'est dans une voiture, c'est pour vérifier. Donc ça, c'est plus un côté ingé son.
Mais ceci dit, c'est vrai que c'était important, ce côté voiture. Tu devais mettre ton morceau dans la voiture et...
Faut que ça sonne dans la caisse, sinon ça repart en
ligne. Moi, j'ai un exemple rapide sur à ce moment-là, c'est sur un 950 ou un 1000, je sais plus. J'ai fait un des sons du premier album, de notre premier album, où il y avait tellement pas assez de temps en sample que du coup tu passes tout en mono puis pour avoir un peu plus et en fait je m'étais recréé cette espèce de synthé à base de bout de sample, sauf que quand tu crées une seule note, elle dure même pas une seconde et il faut que tu la boucles pour qu'elle fasse pour que ça devienne une nappe par exemple. Sauf que quand tu la boucles, ça devient une nappe, ça va faire tum, 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 parce que du coup t'as une fin au truc. Donc j'avais capté un truc avec les enveloppes d'affiner la fin et je balançais tout en reverse. Le reverse par définition il démarre plus lentement, du coup tu sentais moins le truc. Moi c'était pas vraiment pour l'effet, c'était juste pour pouvoir avoir un synthé parce que j'avais pas de synthé.
À partir des samples tu crées,
voilà, et je crée ce truc là sauf que on parlait, je sais plus si c'est Faster ou Musique qui parlait de quand tu détunes, si tu veux, t'as samplé en rapide et tu détunes, il y a une espèce de truc assez métallique qui s'adjoint au son. Et du coup, mon son sonnait, il y a ce grain-là. Moi, j'étais hyper content de ce grain-là. Alors qu'en fait, c'était quasiment du hasard. Mais je trouvais que ça claquait parce que ça rendait violent, un peu agressif le truc. Et un jour, on enregistre et on a la chance de pouvoir avoir un premier vrai mec qui mixe nos sons. Alors, quoique j'abuse parce que le premier maxi a été mixé par Bruno Souris, qui est un tueur. Là, c'était Mitch Olivier. Je sais pas si vous l'avez. Et Mitch arrive, donc je mets tous mes sons avec mon Atari qui balance le truc et me dit, t'as samplé Nine Inch Nails. Ça, c'est Nine Inch Nails.
Moi, celui-là, je lui dis non, non. Je lui dis, c'est un truc que je mets en boucle et tout ça. Il me dit non, non, non. C'est le fait que ça sonne comme ça, là, c'est. Il était quasi persuadé. Et en fait, là, il m'explique que Train 13 Nord, du coup, faisait enregistrer des grattes à ses musiciens ou à ses gars. Moi, je crois qu'à cette époque-là, je savais même pas c'était qui, Nine Inch Nails, pour te dire. Mais j'étais dans le doute parce que tellement on était des pirates de tac-tac, on courait partout. Et c'est possible, j'avais samplé un bout du truc et que le mec avait reconnu. Mais le gars me dit non, parce que le côté reverse, là, en fait, lui, il enregistre des grattes. Il met tout en reverse et il fait rejouer des grattes et des harmonies par-dessus le reverse et ça donnait un truc. En fait, je lui dis que moi, je avais fait la même chose, mais parce que j'étais en galère de synthé, quoi.
Et je trouve que c'est
du très très nord sans faire exprès. Voilà, une sorte de très très nord de noisine sec.
Monsieur, t'as parlé d'aliasing, c'est intéressant parce que les machines aussi, parfois, elles créent ce qu'on pourrait appeler des artefacts, c'est-à-dire des sons inattendus qu'elles rajoutent entre guillemets, mais qui peuvent participer à ce fameux grain dont on parle.
C'est surtout sur la SP1200, ça. C'est-à-dire quand tu le passes et après quand tu le détunes, c'est-à-dire que où tu le fais monter pour l'accélérer en quelque sorte, ou tu le descends pour le ralentir, ça crée de nouvelles fréquences autour qui font que qu'un son que t'as pris une guitare par exemple et que tu l'as détuné à mort, bah t'as un espèce de hurlement, une lamentation, tu vois, un truc.
C'est presque fantôme un peu comme.
Et justement, tu vois ça, là, c'est ce combo là, c'est un Australien qui m'a
envoyé
ces photos.
Alors attends, il faut que tu précises pour ceux qui nous écoutent.
Ça c'est le fameux combo dont on parlait, le S950 et SP12. C'est un Australien qui m'a envoyé ces photos là, qui a un magasin qui m'a fait des photos. Et juste pour tout ce qui est vraiment partie technique, je voudrais remercier justement Technique de Funky Maestro et Lord Mac, avec qui j'ai beaucoup discuté sur ça, qui je voudrais dire, expliquez-moi clairement les trucs et je vais essayer de les retranscrire. Et après, je me demanderai, est-ce que j'ai bien compris le truc, tu vois. Ils nous ont permis de vachement avancer sur les parties techniques pour pas donner l'impression de réciter une notice, quoi.
La SP1200, elle commence à être produite en 87. Un an après, il y a une machine, ce sera peut-être la dernière sur laquelle on fait un vrai focus, après on pourra continuer à discuter machine, hein, mais la dernière sur laquelle on lance, parce que c'est la MPC60.
Évidemment.
Là, c'est la révolution. Alors, Musul, il faut que tu reviennes à la base. T'en parles dans le bouquin. Il y a encore Roger Lynn qui est derrière ça.
Roger Lynn,
c'est tout Roger Lynn.
Quel génie.
Non, mais ce qui est malade.
C'est qu'on a réussi à l'interviewer. Ça,
c'est trop bien.
Ça, c'est Nost qui a fait cette illustration. Elle est magnifique.
Et alors, pour la MPC 60, donc d'Akai, Roger Lynn bosse dessus. Alors, il fait des machines avant, ça, je le savais pas. En fait, toutes les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui, il les établit là. C'est-à-dire qu'il crée le note repeat. C'est-à-dire qu'on appuie sur un pad et puis ensuite on choisit à l'accroche, etc. Et comment de quelle manière la note se répète. Ce qu'on utilise encore aujourd'hui, typiquement pour faire des hi-hats, des trucs comme ça.
Le note repeat, la vélocité.
La vélocité, pareil, ça vient de lui.
Le fait de si tu tapes fort ou pas.
Voilà, sur le pad, plus on tape fort, effectivement. Et ça va être intégré dans la MPC 60. Ça, c'est révolution absolue. C'est encore les standards d'aujourd'hui.
La grille 16 pads comme ça, c'est la MPC 60.
Ça vient d'une machine qu'il avait construite, enfin inventée encore après, qui était la LM9000. Et en fait, là, il a fait un four avec celle-là parce qu'elle était trop. Elle était très ambitieuse. Elle avait encore à nouveau ce petit système avec de 16 pads et tout ça qui faisait encore une avancée. Mais sauf que lui, il n'a jamais eu une vraie âme de businessman et tout ça. Et il s'est embarqué dans un truc trop gros qui a coulé sa boîte. Et en fait, la licence de la S9000 a été rachetée par Bruce Forat. Qui fait aussi de
c'est qui ce mec?
Bruce Forat, c'est aussi un bidouilleur de boîte à rythme et tout ça. Il a fait il a racheté la licence de la LM9000 de Roger Lynn et il a fait lui la F9000 où il a corrigé tous les bugs avec. Voilà. Mais Bruce Forat, c'est un mec qui customise des coques de MPC ou de choses comme ça pour de nombreux beatmakers. C'est un mec qui répare des MPC et tout ça, mais alors pareil, il était ok pour faire les interviews, puis deux trois fois machin, puis t'as plus de nouvelles. Et en fait, Bruce Forat, quand tu vas sur son site, c'est magnifique, c'est de Gengis Khan qui l'a fait. Quand tu vas sur le site de Bruce Forat, tu retombes sur Internet 1996. C'est-à-dire que le mec, il a comme une page Wanadu tellement il s'en fout. Tu vois.
Mais donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plein de versions, enfin de machines hyper innovantes, mais qui rencontrent pas complètement leur public pour plein de raisons. Jusqu'à la MPC 60.
Faut pas oublier le prix. Ouais. Faut pas oublier le prix des machines.
C'est ça qui bloque.
Personne n'a les moyens à l'époque.
La DMX, si tu veux, c'est une sorte de Lindrum, et qui reprend tous les concepts de la Lindrum, mais moins cher, et un peu moins bien, mais plus à la portée
de tout le monde. Quand on dit moins cher, c'est... On est à quoi à peu près?
J'ai plus les prix en tête, là, mais c'est cher.
J'avais l'impression d'avoir vu passer des prix à l'époque, genre des 15 000 francs ou des trucs comme ça.
Tu te rappelles, Faster, toi t'es...
Dans les prix, je m'en rappelle plus, putain. Je sais que j'ai galéré, moi, sur les techniques au début, parce que j'arrivais pas à me les payer.
Pour les platines.
Mais sur les samplers, en tout cas, c'était cher. C'est clair que c'était
là,
super
maintenant,
cher.
Ça, maintenant, c'est sa valeur d'antiquité, donc c'est encore pire.
Oui, voilà, c'est la version vintage, bien sûr.
Après, pas toutes. Moi, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, je sais que la 950, c'est encore une machine qui est cotée, la SR10, pour le grain, pour le boost, il y avait une fonction boost incroyable.
T'en parles dans les mesures.
Et du coup, bah voilà, les TR808, 909, là, ça a explosé, mais clairement... Clairement, c'est devenu des machines de collection, quoi.
Mais la MPC 60, enfin, pour qu'on se rende compte de la révolution que c'est. Comment, avant, c'est des machines trop chères, c'est des machines trop. Comment, avec Akai, Lean, ils se rencontrent et ils arrivent là à faire enfin la machine parfaite. Elle est accessible, je sais pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
C'est pas donné non plus, je pense. Quand même.
Eux, ils étaient en plein développement par rapport à ça aussi, Akai. Parce que Akai fait aussi les S900, les S950, les S1000, enfin toute la série, quoi. Et en fait, ils doivent sans doute avoir un œil sur la concurrence. Tu sais, tout le monde se regarde, sachant que Lean coule, mais qu'il a quand même des bonnes idées, il lui propose de redévelopper une machine chez eux. Mais sauf que quand tu es sur la MPC 60, tu as tout. C'est-à-dire que, en fait, ouais, avant, tu pouvais être obligé d'avoir un sampler, une boîte à rythme, un clavier maître, un séquenceur et tout. Là, tu as tout dans le même
truc. Tout est intégré, en fait.
C'est comme ça qu'il le présente, de toute façon.
Ouais,
c'est
t'as
vraiment,
tout. Ouais,
MPC, c'est Music Production Center.
Ouais,
ouais. C'est vraiment
et
pour
t'as
dire
vraiment tout.
Tout dedans.
Et là,
le sampler, le séquenceur, tu as tout.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, effectivement, il y en a qui ont aussi fait des albums complets juste avec une ESP1200. Muggs, il a fait le premier Cypress qu'avec une ESP1200. Mais avec la MPC, ça te met plein de possibilités et tu peux faire tout l'album avec.
Et le truc dingue, c'est qu'il raconte, peut-être qu'il exagère un peu par rapport à ce qui s'est fait avant lui, mais en gros, Lean, il dit, il y avait quand même beaucoup trop de trucs qui étaient produits avec les ingénieurs un peu en tête. Là, il dit, sur la MPC 60, on était en mode pour les musiciens. Musiciens, accessibilité, facilité. Il y avait même un bouton d'aide pour te dire telle fonction fait telle chose.
Ouais, parce que lui, il a toujours raisonné, un ingénieur musicien, parce que lui, il a raisonné au départ que la première boîte à rythme programmable, quand il fait la LM1, c'est parce qu'il lui manque un batteur, mais il veut un batteur avec du groove, avec du swing. Donc tu vois, déjà, lui, il raisonne comme un musicien, en fait. Ouais.
Mais en fait, cette démarche-là, en vrai, on pourrait dire c'est la MPC 60 à l'époque, c'est l'iPhone des machines. Non, mais parce que qui mettait aussi l'accent sur justement pas un truc pour les ingénieurs, mais plutôt un truc pour les créatifs, bah, c'était Apple. Ouais. Et à côté, t'avais une boîte qui faisait des trucs pour les ingénieurs, par les ingénieurs, c'était Sony. Et en fait, quand tu comparais les deux, ça marchait pas du tout de la même manière.
En fait, il y avait d'autres boîtes qui faisaient toutes les innovations d'Apple, ils avaient déjà fait avant,
ouais,
mais
sûr.
Ils ont tout fait moins bien.
Le truc d'Apple, c'est pas forcément de dire ils ont inventé des trucs, c'est ils ont. Eux, quand ils intègrent quelque chose dans leur machine, c'est exploitable et utilisable par tout le monde. Ouais. Et en fait, ouais, c'est ça la différence.
Tu vois. L'analogie, elle est vraiment bien avec l'iPhone parce que, pour le coup, la MPC 60, certes, c'est la goutte, le point central, la machine mythique. Mais par exemple, pour plusieurs générations, la 2000 et la 2000 XL, sont les petites filles de la 60.
Et parce que ça crée, ça connaît une série.
Ouais. Surtout la 2000 et la 2000 XL, ouais, c'est la machine mythique du hip-hop. C'est des gens qui, par exemple, n'ont jamais connu les SP12. Ou quoi que ce soit d'avant.
Ni les MPC 60 d'ailleurs.
Ouais, ni les MPC 60.
Parce qu'il y a deux versions de la MPC 60.
Ah oui.
Ouais.
Dis-nous, elles avaient quoi de différent?
Il y a une point 2, je crois. Où
elle appelle un peu plus cheap, tu le dis dans le bouquin, elle était avec coque plastique, etc. Mais
c'est,
Lindom.
C'est l'évolution.
Ouais, c'est ça.
Ouais, que Lean, il dit en fait par rapport au truc de base, c'est juste une évolution pour en vendre une autre, mais il n'y a rien de.
Après, il ne faut pas oublier qu'il y avait un côté mercantile. À Kai, ils se sont rendus compte aussi qu'il y a un business qui naissait à travers tout ça. Donc, ils sont passés. Ils sont passés d'une machine à une autre machine. Aujourd'hui, on est à la MPC. Bon, moi, j'ai la X. J'ai la MPC X. Bon, c'est devenu des machines de guerre. Le temps, ça a plus rien à voir. C'est devenu.
Souvent, tu peux les connecter à un ordinateur.
Maintenant, il y a tout dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Ils ont justement sorti la Live 3 là, chez Akai.
Peut-être
un mois.
Et le livre de Musul, justement, c'est que. En fait, c'est l'essence, c'est les fondations même de cette culture. Ouais. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait. C'est que celui qui va vouloir savoir comment tout ça est arrivé, voilà, clairement.
Ce qui est intéressant, c'est que normalement, technologiquement, quand t'évolues, tu regardes pas derrière toi. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu crées un nouveau produit, tu vas pas référencer l'ancien. Et en fait, dans ces machines-là, par contre, aujourd'hui, tu prends une MPC Live 3. Moi, j'ai la 1, par exemple, qui est sortie en 2017-2018. Donc, écran tactile, capacitif, comme un iPad, machin, etc. Et à l'intérieur, t'as des, dans les LFO, t'as des banques d'effets MPC 60,
bah ouais.
MPC 2000.
Recréer le grain, le
sonner à l'ancienne.
Ouais, tu vois, parce qu'en fait, ces machines-là, tu peux, là, avec une MPC aujourd'hui, tu peux sampler une heure et demie si t'as envie de musique symphonique, en fait. Tu vois, il n'y a plus de limitations, machin, etc. Donc, ils sont obligés de mettre des effets pour ramener un petit peu à l'essence du truc, tu vois. Et je trouve cette approche-là vachement intéressante, surtout dans un monde où tous les petits qui se mettent à la musique aujourd'hui, généralement c'est plus avec Ableton Live qu'avec une machine dédiée.
Et que les convertisseurs c'est plus les mêmes, ouais. Que voilà, c'est des histoires de machines et de temps en fait.
Ah, ça dit, parle-nous un peu les convertisseurs, non, c'est quoi le convertisseur?
En fait c'est une histoire de période, c'est comme quand t'avais les amplis à lampe, un ampli à lampe ça te donne un son.
Ouais.
Aujourd'hui, tu prends n'importe quel ampli, ou bon, maintenant ça existe quasi plus les amplis, mais ce que je veux dire, c'est que ça donnait un son. Et ce son-là, on peut le décrire d'une seule façon, c'est chaleur. Et en fait, c'est vrai que quand tu touchais un ampli à lampe, c'était chaud derrière, quoi. T'as des lampes qui chauffaient, quoi.
Et le principe, c'était que la lampe chauffe, quoi.
Exactement. Et donc, voilà, tout ça, c'est.
Il fallait attendre d'ailleurs que ce soit chaud. Ouais.
C'est certain. Une fois, il y a un mec que j'avais rencontré dans un studio qui était un geek pro max, de l'ingénierie du son, hein, ouais. Mais pas forcément sur le beatmaking. Il refabriquait parce que c'était là pour le coup, si les sampleurs c'était hors de prix, les compresseurs et compagnie, tout le matériel de studio, c'était la folie furieuse, les prix. T'achetais une maison, quoi. Et du coup, lui, il a juste analysé quels étaient les composants. Il refabriquait en soudant et tout ça. Bon, il avait une grosse formation. Et en fait, il me disait que il commandait la plupart des diodes, des éléments, de circuits imprimés, etc., chez des fournisseurs qui ne fournissent que l'armée. Tellement c'était d'une qualité de ouf le truc. Donc ça veut dire que pour avoir ce son là, le mec avait mis telle lampe, cette lampe là, c'est genre la Rolls Royce de la lampe. Les mecs le font que pour un truc qui sera dans une, je sais pas, une fusée, je sais pas exactement. Mais pour te dire le côté hyper important de cette chaleur, comme disait Faster, et de ce grain en réalité, ouais. Parce que cette chaleur, tu la cherches pour le grain.
Je crois que j'ai déjà vu même des marques où ils le mettent en avant, c'est un truc commercial en disant.
Military grade.
Ouais, moi, je le savais pas, mais à mon avis, c'est vachement possible. Hein.
J'ai des cartes mères pour PC military grade, c'est de la merde.
C'est vrai,
c'était juste qu'ils sont en mettre un logo.
Ça se fait dans le son aussi, je sais pas si c'est bien. Il y a un truc pour peut-être clôturer un peu ce côté les grandes machines et tout, puis après on continuera un peu notre discussion, notamment avec l'aspect plus numérique, les séquenceurs via l'Atari, etc. Il faudra qu'on en parle pour terminer l'émission quand même. Ces machines qui vont révolutionner la musique, le hip-hop. Faster, tu nous as dit un truc un peu comme ça là-bas. Elles n'étaient pas faites pour les mecs du hip-hop à la base. C'est quoi? C'est une forme de détournement? Et c'est Akai avec la MPC 60, ils commencent à comprendre qu'il y a un public. On commence à faire des machines vraiment pour les mecs du hip-hop? Ou, tu vois, j'ai l'impression qu'à la base, pas forcément eux en tête.
L'analogie, c'est un peu comme les platines, quoi. Les platines, elles n'étaient pas faites pour ça. Les SM 1200, 1210 MK2, jamais elles étaient faites pour mettre quelque chose dessus et commencer à scratcher. Et la réalité, c'est que ça a été exactement la même chose avec toutes ces machines. Et en fait, c'est l'humain, quoi. C'est la personnalité, c'est ce que toi, tu lui mets. C'est en fait, c'est l'amour que tu as, que tu vas transmettre à travers une machine. Et tu vas en sortir quelque chose.
Musul, ce côté... Est-ce qu'il y a un moment, il y a quand même une prise de conscience de l'industrie, entre guillemets? Est-ce que ça peut être la MPC 60 ou plus tard, j'en sais rien, où Akai se disent « Attends, là, on voit quand même qu'il y a un truc qui se passe avec le hip-hop, que les mecs qui font cette musique, ils ont besoin d'outils et qu'on va trouver l'outil le plus adapté pour eux. »
Les évolutions de la MPC, peut-être oui. Mais la MPC 60, Roger Lynn, pour lui, le hip-hop, c'est une dimension parallèle. Même si il a aucun... si tu veux, des fois, il peut y avoir... quand quelqu'un a créé quelque chose et que l'utilisation en est détournée, il va avoir peut-être du mépris ou du dire « Vous n'avez rien compris. » Alors que lui, c'est pas ça. Et quand je lui ai dit, vous vous rendez compte en fait, Monsieur Lynn, non, appelle-moi Roger. Non, j'y arrive pas, on va dire Monsieur Lynn. Quand on lui a demandé, voilà, pour ce que vous représentez pour le hip-hop, vous êtes un fondateur, enfin, vous faites partie des fondateurs, etc., machin. Là, il lui expliquait un petit peu son rôle, quoi. Et, j'ai pas fait ça pour ça, mais merci. Voilà.
Ouais, mais c'est cette humilité.
Non, c'est ça. Non, mais il dit qu'il... Mais, tu vois, on a échangé avec lui sur le fait que, par exemple, il prend l'exemple de Dilla. qui faisaient, tu vois, qui quantisaient pas, et du coup ça donnait un groove spécial. Ben lui, il a été étonné parce qu'il aurait jamais pensé faire ça. Ouais. Pour lui, l'idée, c'est plutôt qu'avec la MPC, il a donné un pinceau. Et après, les gens, ils ont peint avec.
Ouais, c'est ce que j'ai vu à plusieurs reprises. Ouais, mais moi, je me rappelle très bien dans la deuxième moitié des années 90 où tu avais des visuels avec Pete Rock et sa MPC, Dr. Dre, sa MPC.
SP Toussaint aussi. Ouais,
En fait, c'était vraiment un support promotionnel, quoi. Je revois une photo de Dre avec. Non, peut-être première même avec la MPC. Assis par terre, la machine même pas branchée.
Ils l'ont, plus ou moins tous
ou
fait.
Q-tip aussi.
Je sais pas si elle est pas la pub dedans d'ailleurs.
Ils l'ont plus ou moins tous fait et en fait c'était pour dire. Parfois je pense que c'était pour dire moi aussi je l'ai et tu vois moi aussi je vais tout péter.
En fait je me demande à quel point c'est. Est-ce que c'est la promo d'Akai qui mettait ces mecs-là en valeur?
Je suis pas sûr qu'à cette époque-là c'était déjà aussi avancé, mais peut-être que je me trompe. Je suis pas sûr.
Moi, je le lirais plutôt dans le sens vous qui aimez bien le rap et qui vous posez la question de savoir comment ça a été fait, ils ont fait ça. Si vous voulez faire pareil, achetez-le.
Il y a un truc, une question qui peut prêter un peu plus à débat, à discussion, voire à polémique. C'est que j'ai l'impression aussi que ces machines, ça correspond quand même à une époque, là avec le point de vue de la France, où clairement c'est les Français essaient de refaire le son américain. Et j'ai l'impression que ces machines, elles représentent ça aussi quand même. C'est, on a l'exemple américain, on a les machines américaines, enfin produites aussi parfois au Japon, mais utilisées en tout cas par l'industrie américaine. Et nous, en tant que Français, tout ce qu'on va faire, c'est être un peu toujours à la traîne et essayer de rattraper.
Nous, on a toujours tout calqué sur les Américains. On va pas se mentir. C'est-à-dire que celui qui dirait le contraire, ce serait un menteur.
Évidemment.
C'est-à-dire que nous, grâce à Dynasty, Sydney, par rapport à ses émissions sur Radio 7 ou tout ce qui a pu se passer. On a été nourri de musique et de hip-hop, de soul, de plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure, ça a évolué et le rap est arrivé. Et forcément, quand nous, on a commencé à se mettre aux machines, par exemple, la Dynasty, bah, forcément, il a voulu refaire, ou en tout cas s'inspirer nettement de ce qu'il entendait. Parce que lui, il arrivait à avoir les disques, il est allé à New York. Et du coup, voilà, ils sont arrivés, ils voulaient clairement essayer de remettre le son new-yorkais au goût du jour à sa façon. Même si lui, c'est un musicien, par exemple, parce que Dynasty, c'est un musicien.
Mais il n'y a aucun rappeur dans les années 90 qui a fait du rap sans penser aux États-Unis.
En fait, ma question, c'est parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas une nouveauté, effectivement, on le sait. Mais ma question, c'est dans quelle mesure le matériel, les outils ont pu participer à la création petit à petit d'un rap, d'un hip-hop un peu plus français. Parce qu'on sait par exemple que pour le sampling, c'est un truc qu'on voit dans le docu sur DJ Mehdi, c'est qu'effectivement il y a une histoire française, des diasporas, des choses comme ça qui ont fait qu'on a puisé dans le sampling d'une manière un peu différente, dans des catalogues différents, dans des musiques différentes, spécifiques à la France. Et là, il y a un truc qui s'est créé.
Non, mais pour un mec qui va... Des fois, c'était très drôle, c'était qu'il y avait des mecs qui se mettaient à sampler du Serge Reggiani parce qu'ils avaient entendu un Américain qui, lui, l'avait pris comme si c'était de la musique des Philippines. Ouais, tu vois.
Regarde sur Ombre et Lumière, IAM, ils ont énormément samplé de musique un petit peu orientale, des dialogues de films et tout ça. Et sur L'école du micro d'argent, il a samplé Imhotep dans des disques de comment ça s'appelle l'UNESCO. Tu sais, des patrimoines mondiaux de la musique. Là, il a beaucoup samplé là-dedans. Quand tu entends l'école du micro d'argent, t'as un espèce de gong avec un truc qui fait ben c'est des bonzes qu'il a samplé, un truc de bonzes.
Et est-ce que, donc ça sur le sampling auquel les Français se sont démarqués de cette manière, en puisant dans des catalogues différents certainement, et puis il y a leur histoire, est-ce que les machines aussi, vu qu'on avait quand même les mêmes outre-Atlantique et ici, est-ce qu'il y a eu des trucs un peu plus spécifiques français, j'en sais rien, des façons d'utiliser les machines, des machines qui ont mieux marché peut-être sur le territoire français qu'ailleurs, j'en sais rien. Est-ce que à votre connaissance, il y a des trucs comme ça?
Non. Moi, je pense que c'est un mouvement global. Certes, c'est né aux États-Unis, mais comme ça aurait pu naître ailleurs, mais ça correspond à un type de population, socialement, hein, je parle, hein, pas forcément... Ouais. Et ce type de... Les grands ensembles et de gens qui n'iront certainement pas au conservatoire ou quoi que ce soit, de gens qui ont un besoin d'expression et qui rencontrent une manière autodidacte de l'exprimer. On aurait pu en parler aussi pour certains graffeurs, pas pour tout le graffiti, mais pour certains graffeurs ou pour des danseurs, etc. Mais il y a ce besoin d'expression qui rencontre un courant qui est généré, il se trouve dans le Bronx, à New York, etc. Et comme la photocopie du Bronx à New York, tu peux la voir à Amsterdam, à Paris, dans le 9-3, à Tokyo, un peu n'importe où, avec certaines adaptations, certes. Hein, tu vois, dans certains pays plus tradis, etc., il y avait d'abord la petite phase où ça vrillait du tradis au hip-hop en soi. Mais quand c'est le même type d'environnement très brut, tu sais, des immeubles, des grands ensembles et du béton, du bitume, bah, y a tendance à avoir une sorte de mimétisme qui se fait quasi naturellement. Et du coup, dans le rap français, pour le coup, c'était quasiment dès le début, quoi. T'avais vraiment un mimétisme de ce qui se faisait aux États-Unis. Parce que c'était naturel de le faire aussi, parce que ça commence à Paris ou en banlieue, dans le même type d'environnement qui ont fait germer le hip-hop.
C'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est le hip-hop new-yorkais qui a pris en France principalement. En plus des sonorités, il y avait les styles. C'est-à-dire que les mecs, à un moment donné, quand la mode c'était les vestes coupe-vent Ellie Hansen, les mecs qui portaient ça, t'avais Big L qui se baladait limite en combinaison de pêcheur à Harlem, à Châtelet-Léal, t'allais tous les mecs, t'avais l'impression qu'ils descendaient d'un chalutier.
Ça pompait directement.
Mais
alors c'est marrant parce que moi d'où je venais en RER, tu traversais différentes strates. Parce que je passais par Sarcelles où ils étaient plutôt très West Coast, et après c'était Saint-Denis où c'était vraiment beaucoup plus New York.
Pour poursuivre là-dessus, du coup, les adjonctions du fait que tu ne sois pas américain, en réalité, il a fallu d'abord digérer. Limite, tel art il naît là-bas, tu le digères un peu. C'est comme le MMA qui a germé de plein de différents sports qui sont nés à droite à gauche, en Asie, etc. Et au final, t'as quelque chose qui en sort. Je pense que le hip-hop, en tout cas, ou le rap, ou la musique hip-hop ou musique rap, si on veut, elle s'est nourrie un peu partout. Et si tu regardes bien, le hip-hop en Angleterre, très tôt, a réussi à mettre sa vibe.
Ça n'a pas été le même, c'est clair.
Très très tôt. Et t'as même dans la manière de flower, compagnie, etc. Au tout début, ils faisaient aussi du mimétisme. Silver Bullet, Bring for the Guillotine, etc.
C'était très Bomb Squad.
C'était très Bomb Squad.
Et petit
à petit, et on le voit dans l'apogée, c'est dans les années 2000 où on voit arriver tous les Dizzy Rascal, etc., etc., où tu te dis, mais là, c'est du rap.
Avec le grime.
C'est complètement UK.
Alors qu'avant, t'avais des Funky Slam et tout qui étaient très new-yorkais dans l'approche.
Après, c'est les Anglais. Les Anglais, ils ont toujours eu plein de sons, ils ont eu des sons, c'est eux,
C'est vrai aussi.
On avait contacté DJ Supreme d'ailleurs d'Hijack. Qui après plusieurs échanges n'a finalement pas répondu.
Sur les Anglais.
En plus, je l'ai menacé, tu sais, comme ils étaient Hijack, ils montaient avec les cagoules et les haches. Je disais que j'allais déjouer, c'était terroriste groupe et j'avais l'objet c'était terroriste email sender. Et après, je lui disais que j'allais arriver avec une hache et une cagoule pour y verrer qui je suis, quoi.
Mais en même temps, Hijack, c'était mortel. C'était un courant, c'est un courant qui nous est arrivé d'Angleterre et dont on a trop kiffé, quoi.
Et en France, du coup, t'as quand même pas mal de manières de voir les choses qui ont, par exemple, la manière de transcrire le Mobb Deep en un truc beaucoup plus mélodieux. Certes, il y avait les vrais puristes et tu avais des morceaux qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau au truc assez avec la tension et l'underground qu'il pouvait y avoir dans les sons de Mobb Deep, mais la majeure partie du truc,
c'était du piano,
devenu vraiment supra variété avec un beat de rap. Après, sans parler de notre paroisse, mais notre paroisse, elle existait nulle part en fait. Quand nous on arrive, ce qu'on a appelé le rap alternatif, si ça germait un peu à New York avec tout ce qui était Company Flow, etc., etc., mais nous on avait notre particularité, par exemple. Pour nous, qui était aussi qui ne rejetait pas les influences funky, si tu veux, et ce truc là est très français. Et tu pouvais en avoir des mecs comme DJ Honda, genre au Japon, qui amenaient leur vibe et tout ça. Je pense qu'il y a eu ces adjonctions, mais que le programme de base, c'était vraiment
faire New York,
Mais pourtant, tu le précises, la caution, vous aviez votre son, et j'ai pas l'impression qu'il était calqué sur un son américain, tu vois.
Non, mais justement, vous, par l'échec de mes tentatives de faire du premier ou du pit rock, je me suis dit, bon, écoute, fais du Nick Fury, ce sera mieux.
Ouais, ça se trouve, si t'avais réussi à émuler pit rock, t'aurais fait des sons à la pit rock.
Et je me serais baladé avec les mêmes sapes que pit rock et tout. Non, nous, personne, après, c'est assez culturel, mais c'est qu'en banlieue, t'as une identité assez forte, dans certains coins en tout cas, qui fait que, par exemple, ce qu'on appelait allez, péjorativement
les Zoulous.
Les Zoulous.
Bien sûr.
Toi, tu peux, moi, personnellement, j'aurais pas pu rentrer en mode avec un truc, un tri, un truc super sans me faire charrier jusqu'à la mort. Voire même où ce que des gens auraient pensé que, c'est, que j'étais un mec chelou, tu vois. Alors qu'il y a pas rien.
T'avais pas ton petit pendentif avec l'Afrique.
Pas ça, tabac, ça, ça
serait. Non, le pendentif avec l'Afrique, ça va. Non, mais c'est vrai que, ouais. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que.
On avait notre propre style.
En fait, il y a d'abord eu un mimétisme. Avant justement de développer ton identité.
Ça, c'est obligé. Quand c'est justement l'introduction d'une partie où je dis il faut un moment avoir ces influences pour les digérer et pour t'en éloigner et faire ton propre style.
Ouais. Et c'est pour ça que moi, tu vois, quand on me pose la question, on me dit ouais, mais comment ça se fait? T'écoutes du Peura, machin, etc. Et t'aimes pas NTM? Je dis non, j'aime pas NTM. Parce que le hip-hop qu'ils m'ont ramené, eux, j'ai jamais kiffé. Autant aller écouter directement la source. Je m'en bats les couilles d'avoir des gens qui traduisent du brooklynien.
Après, par contre, tu peux les voir en live, ça, c'est bien.
Non, alors, en live, ils sont forts. Ouais. Ça, c'est pas la question.
Attention, pour te couper, NTM, ça reste quand même un des groupes majeurs du rap français.
Bien sûr.
Les prods de Clyde et de Max à l'époque et de Détonateur S, c'est quand même, entre guillemets, des références pour le rap français.
Bien sûr, mais
c'est-à-dire qu'il faut pas oublier... C'est-à-dire qu'OK, on peut dire ce qu'on veut, mais la réalité, c'est que ça reste des vraies références calquées, soit sur les États-Unis, mais entre nous, il n'y avait pas que. On était hyper nombreux à faire ça.
Ah non, bien sûr. Non, mais attention, je dis, j'aime pas, j'ai pas dit c'était nul.
Non,
attention.
Mais moi,
je viens du 9-4, donc c'est pas possible. Tu vois.
Non, mais regarde.
Alors
moi,
que moi, tu vois,
Assassin,
c'est pas d'Italie, c'est déjà Marseille, c'était possible.
Non, tu regardes, Assassin, qui sont, bah, pour le coup, pas du 93, mais Assassin, NTM, c'est quand même... Pour moi, de ceux qui ont le mieux émulé la technicité du rap, qui était celle du
Screw
et compagnie, etc., ils l'ont tellement bien fait. Après, certes, hein, c'était ultra influencé, donc ça samplait les mêmes trucs, etc. Et du coup, dans la musique, tu pouvais avoir un mimétisme que peut-être toi t'estimais trop grand. Mais moi, à cette époque-là, je sais que je me disais, c'est balèze d'avoir réussi à faire ça en français. Parce que pour le coup, personne ne l'a fait avant. Pas le grand monde l'a fait avant. Il y avait des rappeurs qui prédataient. Mais cette génération-là, tous, même ceux qui sont un peu avant eux et un peu après eux, c'est des gens qui ont quand même réussi à transcrire quelque chose. L'anglais sonnait super bien. C'était assez difficile. Et n'importe qui commence à rapper peut s'en rendre compte. Quand tu vas lancer tes rimes et que c'est assez queuse, bah justement, c'est la même chose qu'avec les boîtes à rythme. C'est assez queuse, alors que l'anglais, c'est... T'sais, ça enrobe bien et tout ça. C'était quand même un truc qui, moi, m'avait marqué.
Ah non, non, réel. Après, je comprends parce que...
Après, une histoire debout et tout ça, ça me...
Non, mais après, il faut rappeler, t'es de Noisy-le-Sec.
Ouais.
Donc, t'es du 9-3, donc, voilà.
Moi, c'est pour ça que j'ai cité Teusquois avant, Assassin. C'est pour ça que j'ai cité Assassin avant. Ils sont du 18.
Bien sûr.
Ça vient pas de 93.
En plus, tu parles d'Assassin, Liam, le compositeur...
Doctorel, qui est dans l'album. Qui est dans le livre, pardon.
Qui, lui, était complètement en inspiration totale sur Hank Choclet et Eric Vietnam Sadler, Public Enemy. Et le mec, donc Doctorel, ce qu'il faisait, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il avait réussi... D'ailleurs, comme toi, à refaire un son, à réobtenir un son. C'est-à-dire que, OK, il avait eu la capacité à tout engranger de tout ce que Hank Choclet et Eric Vietnam Sadler avaient fait, mais il a ressorti sa sauce avec Assassin.
On est d'accord pour dire que Dr. L, c'est aussi celui qui a beaucoup bossé avec Stomy, le ministère Hammer. Il a fait
Mon papa, moi, est un gangster.
Ah ouais.
Il a fait le de Stomy avant ça, justement, avec l'impasse et tout ça.
Il fait chaud aussi. Mais justement, tu parlais de Dr. L, il y a quand même une première période là, des albums qu'on voit, Le futur que nous réserve-t-il, où il est dans quelque chose de très bon squad. Très bruyant et inconfortable. Et avec l'homicide volontaire, je sais qu'il y a beaucoup de beatmakers qui n'ont pas accroché à ça parce qu'il y a une énorme musicalité autour avec plein d'arrangements et tout ça.
C'est son évolution.
Ouais, je trouve qu'il est à un niveau incroyable.
Faut qu'on avance, les gars, mais brièvement, chacun, si vous deviez n'en retenir qu'une, alors vous, Nick Fury, Faster J, idéalement que vous avez utilisé, qui a été trop important dans votre parcours, Musul, toi, une qui est dans le bouquin et qui est chère à ton cœur.
Une machine,
une seule si tu dois en retenir dans ton parcours qui a été essentielle, tu vois.
Essentielle, c'est le S950, c'est le premier sampler sur lequel j'ai bossé et qui m'a, si tu veux, expliqué la marmelade qu'il y a derrière le son qui sort, comment ça fonctionnait, donc que je peux pas m'empêcher de rajouter à une autre machine que bon, que je mettrais dans son son occurrence musicale, que je mettrais comme mythique, qui est l'Atari donc, et Cubase, ouais. Parce que là-dedans, là, tu commences à comprendre comment tout ça se structure, etc. Et donc, mais en tant que sampler, en tant que machine, je dirais le S950.
On va parler de l'Atari. Faster Jay.
Et moi,
une machine.
Moi, clairement, c'est la découverte.
Bien devant ton micro,
c'est
pardon.
La découverte de l'Ansonic, la SR10 avec Guts. Parce que là, on repasse à un niveau au-dessus encore, au niveau du grain et au niveau de la patate que la machine elle a en elle-même. Mmh. Et ça, j'avoue que j'avais trouvé ça assez incroyable à l'époque.
Là aussi, on est sur des stations de travail où on a tout, sampler, séquenceur, le clavier maître.
Ça, c'est un peu la suite dans le bouquin. On laisse les gens découvrir le bouquin, mais c'est après MPC 60, ouais. T'as effectivement des workstations où t'as clavier intégré, séquenceur, t'as absolument tout dedans. Ouais. Ouais. Toi, Musul, t'as...
Moi, je dirais la SP1200 quand même, ouais. Parce que j'aime bien ce son sec et dégradé qui donne vraiment quelque chose de très typique sur le hip-hop. Ouais. Et puis c'est surtout que, voilà, pour une machine qui était prévue pour faire de la percussion, ils ont concassé James Brown à l'intérieur dans tous les sens, quoi. Sa voix, sa guitare, tout. James Brown, il est passé à la moulinette là-dedans. Et avec pas grand-chose, les mecs, c'est ce que je disais tout à l'heure, le premier Cypress qui est fait avec juste cette machine. Et puis, enfin, les prods de ouf, quoi. Tu vois, la prod de Jump Around, par exemple, qui tourne toute bancale, là, toute bizarre.
Il faut qu'on parle de ces idées-là, enfin de ce truc, des formes de prémices de la MAO. On parlera un peu d'aujourd'hui aussi, puis on terminera. On va essayer d'aller un peu vite. Parce qu'on a l'informatique naissant des années fin 80, 90, avec Amstrad, Amiga, Atari, etc. Et effectivement, débarque sur Atari Cubase, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est encore un séquenceur numérique qu'on utilise énormément, un DO. Ma question, elle est un peu bête peut-être, mais c'est quand on a vu aujourd'hui que voilà, le marché est dominé par ces DO sur ordinateur, comment dans les années 90, les autres machines ont subsisté? Pourquoi l'Atari avec Cubase n'a pas bouffé tout le reste tout de suite? Est-ce que c'était trop cher? Est-ce que c'était un autre workflow? On ne s'est pas adapté? Comment ça se fait que ça, quand même encore dans le hip-hop des années 90, c'est subsisté les autres machines alors qu'on avait déjà la puissance de presque de la MAO?
Alors moi, je dirais pas qu'on avait déjà la puissance.
Ouais, c'était limité en réalité.
Alors, la MAO, le terme existe parce qu'il en faut un, etc. Mmh. Mais par exemple, moi, j'ai toujours eu une sorte de gêne parce que j'estime pas réellement. Je trouve que beatmaking, c'est plus ce que je fais que de la musique assistée par ordinateur. En réalité, peu importe. Tu parlais d'SP12. Moi, j'aurais pu te citer la SP12 si je l'avais eue, mais elle était beaucoup trop chère. Mais je pense que j'aurais certainement fait des titres entièrement sur le truc sans avoir de nécessité ou d'envie d'aller séquencer outre mesure, si tu veux. Si j'avais pu le faire sur une SP directement, je pense que j'aurais adapté mon workflow là-dessus.
Parce que ton Atari, tu l'utilisais quoi, à la souris?
Ouais, j'utilisais avec sa souris, ouais, et ouais. Avec après, dans un second temps, j'avais vu un clavier maître et tout ça, mais au tout début, je mettais les carrés dans les trucs.
Donc piano roll,
un moyen. Pour, si tu veux, c'est un moyen pour une fin. C'était pas du tout. J'y voyais pas un intérêt particulier. Même par exemple, ensuite, j'ai beaucoup bossé sur MPC 2000. Pour moi, j'avais aucun souci.
Pourtant, c'est tellement pas la même démarche. Un clic souris sur un piano roll et taper avec du finger drumming, par exemple.
Tu peux plus le voir avec une vision actuelle. En disant à quelqu'un qui a grandi dans la manière de faire de la musique avec des ordinateurs, donc actuellement, et donc plein de possibilités. Mais nous, la réalité, c'est que c'était juste un moyen d'arriver à un outil. Donc le fait que ça passe par des petits carrés sur une grid ou alors parce que tu tapes le truc, rec play, tu tapes le truc, tu coupes un spectre... Pour nous, c'était la même fin, si tu veux.
On s'en foutait, en fait. C'était juste la machine qui était la moins chère, parce que c'était un 1040 ST. Même avant, il y avait le 520 de mémoire. Ouais. Et en fait,
des modèles d'Atari, c'est ça.
C'était une facilité. C'est-à-dire que de ton 950, 1000, 3000, peu importe la machine, ben, tu déversais ce que tu faisais dedans, tout simplement. Et en fait... Il n'y avait pas d'autres, entre guillemets, visions à avoir. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se faisait.
Tu avais des sampleurs à côté et avec ton Atari, tu avais le séquenceur.
Tu avais ton sampleur qui était relié, tu jouais et tu avais ton clavier maître, comme il disait. Et puis tu jouais ta rythmique, tu lançais ton sample, tu pouvais copier, tu pouvais régler la vélocité.
Tu es passé par ça toi aussi,
t'as vu ? Oui, tout à fait. Ouais.
Mais tu as quand même continué à utiliser en parallèle des machines, avec séquenceurs intégrés, etc. Tu parlais de la SR10.
Je l'ai fait plus tard.
SR10.
Mais je l'ai fait plus tard. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé vraiment avec les MPC et les pads, j'ai lâché l'ordinateur. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je l'utilise plus à la
Moi je me rappelle même que à cette époque-là où tout le monde faisait un petit peu de son machin, ouais. Quand t'arrivais quelque part et que tu voyais une MPC, t'étais content. Mais quand tu t'arrivais quelque part et que tu voyais un Atari, tu fais ah. C'était pas, c'est pas comme si genre l'Atari c'était l'évolution du truc.
Parce que moi avec ça, l'Atari il était hyper important. C'est-à-dire que la durée dans le temps des gens qui se sont servis de l'Atari.
Il y a des studios qui ont été montés avec un Atari.
Énorme, c'est-à-dire
très longtemps.
Pour le rap.
Il y avait une pédagogie de fou avec l'Atari.
Bien
sûr. Parce qu'en fait, tu voyais, si tu veux, les sampleurs, que ce soit MPC ou quoi que ce soit, tu vois pas exactement ce que tu fais, mais là t'as un truc qui déroule et t'as
sur ton écran d'ordinateur
un espèce de long rectangle qui représente ta loupe, ta boucle,
t'as ta séquence, t'as tout ça
devant toi. Donc du coup, malgré tout, c'est un truc assez pédagogique, surtout pour des autodidactes,
pour les gens qui sont derrière
et qui commencent à capter du coup ces notions dont tu parlais tout à l'heure, de swing, de groove, etc. Ah mais attends, la caisse claire elle tombe pile poil là,
décale légèrement,
si je fais juste ça et ça donne ce petit truc, et du coup des Jedi là et compagnie sont certainement des enfants de la vision de leur musique sur un écran.
Après, j'ai une bêtise, ou sur MPC t'avais quand même un séquenceur avec des petits carrés, tu pouvais visuellement quand même décaler
la MPC. L'écran, c'était genre l'écran de calculatrice scientifique.
Là, ça avait rien à voir, ça faisait un centimètre sur je sais pas quoi. C'est à dire que là tu te retrouves avec un vrai écran qui faisait je sais pas 20 centimètres sur 20 centimètres, un truc comme ça.
Et en fait c'est comme c'est pareil, t'as des voitures où maintenant tu rentres dedans et t'as le compteur au milieu de la bagnole et tout le monde le regarde. Et t'as les Alfa Romeo où en fait il y a que le gars qui est au volant qui voit à quelle vitesse il roule parce que le compteur il est au fond du tableau de bord. Et ben la MPC c'était pareil. Le mec il était devant sa machine, tu pouvais pas voir ce qu'il faisait parce que lui il était avec le jog dial machin et tout. Lui il voyait ce qu'il faisait sur un écran comme ça, tu vois. Sur un Atari ou même sur des PC avec Cubase, etc. Ben là effectivement, en fait le processus créatif, la personne qui fait l'instru, les gens sont derrière et tu peux dire vas-y décale un petit peu, change le truc.
Ouais, puis il y a les erreurs de parcours aussi. C'est-à-dire que parfois tu pouvais être sur, je sais pas, par exemple dans Akai, t'as Edit Programme et Edit Sample. Et parfois tu pouvais passer sans faire attention de Edit Programme à Edit Sample et du coup. T'as des trucs qui jouaient bizarre, en fait, tout jouait en même temps. Mais parfois, quand t'entends plein de trucs jouer en même temps, ça te fait des trucs de fou. Tu dis putain, attends là, c'est presque un morceau le bordel. Tu vois, donc t'essayais de
le hasard,
de
les erreurs.
Ce que l'erreur en fait.
C'est l'histoire de la musique, ça. C'est clair. Les erreurs, essayer de les reproduire.
Le Coca-Cola.
C'est important en fait. C'est important.
Musul, est-ce que c'était une question un peu naïve, ce truc de moi avec mon regard, avec ce que je sais la puissance de l'ordinateur aujourd'hui dans la production musicale. Et d'ailleurs, il a supplanté tout le reste. Pas forcément. On peut combiner les choses évidemment, mais n'empêche que c'est devenu le truc le plus important pour produire de la musique. Si je me replonge dans le contexte, c'est pas aussi clair. C'est pas la supériorité de l'Atari sur le reste des machines analogiques, etc.
C'est pas forcément. L'Atari intervient comme un espèce de chef d'orchestre au milieu de tout ça, en fait. Quoi. C'est surtout ça.
C'est complémentaire.
Et en fait, tu te rends compte que c'est quand tu remets dans le contexte de l'époque et que tu essayes de comparer l'Atari avec ce qu'il y a maintenant, mais même ton téléphone le plus merdique, il est plus puissant qu'un Atari, en vrai.
Sûr.
Voilà. Même les premiers téléphones qui prenaient des photos, c'est plus puissant que ça. C'est juste que ça incluait du MIDI. Donc, ce qui fait que toutes les machines que tu pouvais relier avec cet Atari parlaient toutes la même langue. Et ils pouvaient tous communiquer. C'est qu'avec l'Atari, tu disais, hop, là, tu vas aller chercher ce sample-là. Là, tu vas taper un kick, là, tu vois.
Et après, les synthés, parce qu'on pouvait... Voilà, après, en fait, c'est l'Atari, c'est une forme d'évolution, comme il disait, grâce au MIDI. Et tu pouvais y intégrer d'autres choses, et c'est ça qui faisait
un chef d'or... Le truc est un chef d'orchestre, exactement. En fait, plutôt que... Voilà, c'est, qui nécessite pas non plus une puissance de malade.
Puis c'était une machine de guerre, hein. C'était très solide. Il y en a, il s'allume encore. La majeure partie de mes disquettes d'époque ont pas supporté le temps, mais... J'ai un des Cubase, parce que du coup c'était un Cubase craqué à l'époque déjà, je vois les mecs qui craquaient un truc, il fallait une clé et tout ça, mais c'était vraiment en mode
c'était en mode disquette, quoi,
aller déplomber la disquette.
Moi je me rappelle, je l'avais récupéré l'Atari gratuitement, parce que c'est un mec qui me l'avait donné, un mec qui à l'époque il avait un vidéoclub à Noisy. D'ailleurs, je me rappelle même plus. On se connaissait à l'époque, on parlait de films surtout avec mon ref, il parlait beaucoup de films. Et il me dit, en fait, je sais qu'il y en a qui font de la musique avec ça, si tu veux, je te le passe et tout ça. Et j'étais comme un ouf, parce que pour le coup, c'est le truc qui te permettait de vraiment commencer à structurer. Mais en vrai, dans la hiérarchie, moi, j'ai limite, avec le recul, là, je regarde, je placerais MPC, SP12, ça, au-dessus de Cubase 950. C'est-à-dire que toi, t'avais Cubase et 950, mais le mec qui était frais, qui avait de l'oseille et tout ça, il était dans, dans les machines où il y avait tout en un et tout ça. Ouais. Nous, on était limite, un peu, limite pas en galère, mais si tu veux, c'était moins évident, quoi.
C'est pour ça qu'il y a eu un vrai retournement, tu vois. C'est marrant. Où, après, avec les Ableton, etc., maintenant, les gens, ils ont l'habitude de bosser avec des dos et quand t'arrives avec ta machine, et d'ailleurs, c'est une réalité aussi au niveau machine. Là, on parle d'Akai qui revient maintenant avec les MPC Live et la Renaissance, etc. Mais de 96 à 2008, il n'y avait rien. Enfin, Akai sortait que dalle. Et les gens se disaient, je vais m'acheter une MPC 1000, est-ce que je fais bien? Parce que la machine, elle a 10 piges. Bon, c'est un peu con, mais d'un autre côté, ça marche avec des piles, tu vois. Et en fait, il ne s'est rien passé jusqu'à ce que, je sais pas, ce qui s'est passé chez Akai, justement.
Ce qui s'est passé, c'est l'explosion du rap mondial. L'évolution des beatmakers, des réseaux sociaux.
Non, mais ce qui est intéressant, ça, c'est quoi. Que moi, l'évolution des beatmakers, par exemple, il y a un beatmaker que je surkiffe depuis toujours, depuis qu'il est actif, donc depuis le début des années 2000, c'est Nine Founder de Little Brother. Lui, il a tout fait avec Fruity Loops à l'époque, donc FL Studio maintenant, tu vois. Donc il sortait des beats avec des samples, justement, à la Pete Rock, à la première,
etc. Ce que tu dis, c'est super important parce qu'en fait, c'est pas la machine qui fait le son. C'est le mec,
c'est le gars.
C'est le chef d'orchestre.
Et ça, pour moi, c'est j'avais déjà évoqué.
En fait, ça, c'est un peu la base. C'est-à-dire que c'est celui, tu vois, j'écoutais son morceau tout à l'heure et je me disais, putain, chambé, parce que pour l'époque, ce qu'il avait réussi à faire, c'est qu'il avait mélangé plein de trucs. Voilà. Et en fait, tu vois, moi, j'aurais pas pu faire ça, par exemple. Et je me dis, c'est lui, là. Il était devant, puis il a eu son inspiration. Et en fait, ça aurait pu être n'importe quelle machine, dans l'absolu. Ça aurait pu être autre chose. Il aurait peut-être fait un peu différemment, mais ça aurait sonné comme ça.
Mais il y a des moments dans l'histoire de la musique où il y a des rencontres entre les envies d'un musicien et puis les outils qu'il va utiliser. Et les deux se rencontrent bien et ça donne un truc. Peut-être qu'ils n'avaient pas eu cet outil, ça n'aurait pas été exactement ça.
Ouais, mais en tout cas, c'est la vibe du gars, quoi.
Ça, de toute façon, ça, c'est évident parce que pour le coup... tout à l'heure on écoutait Respect et c'est vrai que moi si tu voulais tu l'as fait dans le ASR10
je l'ai fait dans le Akai.
Du coup moi je ne trouvais pas du tout que ça sonnait justement vous avez réussi à le rendre beaucoup plus groovy. Alors,
rendons à César ce qui appartient à César. En fait moi la rythmique je l'ai faite dans le Akai, mais après en studio
il y a
du Bob Power derrière. C'est de la soul trap, D'Angelo,
parce que pour le coup vous avez dominé le grain de ouf
et clairement après le sample original, la rythmique originale de Gab Band. Bon, moi j'ai une collection de vinyles, machin. Et déjà, le son de Gab Band, de l'original, du maxi original, il défonce. Ouais. Donc, c'est ce que cet ingénieur m'a appris. Il m'a dit, quand tu prendras un bon son, t'auras un bon son. Si tu prends un son pourri dès le départ, ton son, il sera pourri. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai enregistré, qui m'a tout le temps servi. C'est Respect, c'est fait vraiment comme ça, quoi.
Mais parce que les machines en réalité, elles ont aujourd'hui avec le temps, tu peux commencer à les associer à des plus pour tel ou tel compositeur, etc. Mais évidemment, si le mec était doué, il aurait joué, que ce soit avec des musiciens, il aurait créé quelque chose d'autre. Mais la contrainte et si tu veux l'espèce de progrès. Aujourd'hui, tu peux avoir un concerto sur une session dans un do, tu peux avoir un concerto complet. Ça, la profusion, amène des nouveaux génies de ce truc-là, noie beaucoup de gens parce que c'est quand même assez, il y a trop limite des fois, parfois. Et d'un autre côté, le côté un peu restreint, resserré, moi, ce que je savais pas totalement, j'avais déjà entendu parler de Roger Lynn, mais je connaissais pas totalement son histoire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un gars a pensé dur comme fer jusqu'à réussir après avec les MPC. Mais je suis musicien, je vais avoir besoin de quoi sans trop être casse-couille. Si tu veux vraiment avoir un truc assez ergonomique, et c'est ce qui s'est passé avec ce type de machine-là, que par définition, un mouvement comme le hip-hop qui est globalement très porté sur le do it yourself, très autodidacte, a fait ses outils siens, les leurs, tu vois. Et je trouve que c'est vachement intéressant de voir
l'impact aussi que la machine a sur la créativité. Parce que organiser toute une session avec un violoniste, un guitariste, un machin, etc., c'est complètement autre chose que de te dire ce soir, je me... Et c'est pour ça que tu avais des mecs avec sur des pochettes d'albums avec leur MPC et leur casque. C'est, je t'explique, moi je suis dans mon monde.
Ah, je suis en mode solo.
Là, je suis là. Et ce truc-là, cette esthétique-là, elle était intéressante parce que, elle était le miroir de la créativité du gars.
C'était de la débrouille, quoi. Ouais. Là, je leur dis, mais c'était de la débrouille. Et puis, il ne faut pas oublier les vinyles dans tout ça, quoi. Les vinyles, pour l'influence que ça a donné, c'était incroyable.
C'est essentiel. Ça fait 2 heures qu'on discute, les gars.
Pour
terminer, parce qu'on parle de modernité, on parle un peu plus de la période d'aujourd'hui. Musul, dans le livre, tu t'arrêtes quand même globalement à une certaine période. Tu ne traites pas du tout d'aujourd'hui, de la place de ces machines, etc.
Dans un deuxième livre,
c'est,
peut-être.
C'est un choix un peu éditorial, c'est tes goûts.
C'était notre choix. On voulait juste documenter une époque où justement, tu n'avais pas accès à tous les outils. Et où il fallait, comme disait Fury, c'est-à-dire que te développer ta créativité par rapport aux limites que la machine t'imposait. Tu ne pouvais pas aller au-delà, donc il fallait essayer de passer par en dessous, voir s'il y avait un peu de place, etc. Mais c'était ça qui nous intéressait surtout. Et puis, cette façon aussi, c'est quand même une époque où la musique, tu la vois pas sur un ordinateur, quoi. Tu vois, maintenant, tu vois tes trucs, ah, c'est là que ça va pas.
Tu fais de la musique avec les yeux beaucoup
voilà,
plus.
Voilà, c'est ça, voilà. Et voilà, le contact avec la machine, t'en as qui n'ont jamais abandonné ça. Continue à travailler toujours avec.
Parfait, c'est ce que j'allais dire, c'est autant on comprend l'idée, on peut pas parler de tout dans un livre, donc faut faire un choix. Par contre, c'est vrai que le truc qu'on peut regretter, c'est de se dire, l'histoire de ces machines, elle continue d'une certaine manière. On parlait des 808, des basses, etc. Il y a plein de mecs qui continuent à utiliser, alors en général, avec le séquenceur sur l'ordinateur comme base évidente, mais pour avoir un certain grain, quand même utiliser encore une vieille MPC ou des choses comme ça. On en avait parlé un peu avant l'émission, mais j'avais discuté avec les gars de la BCDR qui m'avaient cité notamment Messa à la prod, par exemple, qui prod pour des mecs comme Joule, comme PLK, etc. Et qui, pour autant, en fait, est un fan de vieilles machines, fait aussi des prods boom bap, etc. Donc c'est pas aussi il y a pas eu un switch total et elles ont encore une vie et c'est presque on aurait envie à la fin tu sais juste un truc de dire ces machines sont encore vivantes quoi. C'est pas qu'un truc de vieux entre guillemets.
Après tu sens qu'il y a des mecs qui quand même apprécient aussi les fondations, les bases de cette culture là. Tu parlais de ces compositeurs là clairement c'est des gars qui sont entre guillemets respectueux d'une période et d'un son et ils le retranscrivent à travers leur prod.
Mais si ça se trouve en 2070 t'auras un Musul du Turfu qui écrira sur Cubase 1.4 versus Cubase 1.8 tu vois
et un cockroach
tu vois un cockroach mais tu sais juste ce truc je sais pas si vous en avez discuté justement avec cockroach ce truc de finir sur une forme d'ouverture l'histoire continue je sais pas tu vois ou plutôt que le truc c'est un peu c'est une période un peu finie
non parce que si tu lis vraiment la toute dernière partie où c'est les beatmakers qui s'expriment sur la
vision du jour
maintenant ils ont tous une vision différente en vrai t'en as qui te diront nous on s'est adapté moi les machines j'ai laissé ça derrière moi mais je continue d'autres qui disent non c'est terminé voilà
mais pas avec les acteurs d'aujourd'hui c'est ça que je veux dire
avec les acteurs d'aujourd'hui, même s'il y en a qui continuent à faire, parce que évidemment, on a fouillé sur des gros noms de la production hip-hop, mais t'as encore des mecs d'aujourd'hui qui sont dans cette vibe-là, Kyo Itachi, Azaya, Seth, enfin des gars comme ça, quoi.
Mais est-ce qu'on a des gens qui ont vraiment commencé à bosser? Je suis con, il y a encore DJ Premier ou des mecs comme ça, mais tu vois, de la même manière que tu dis un Santana ou un Clapton, le mec qui sait jouer de la guitare, il en jouera toute sa vie. Est-ce qu'on a des gens qui ont commencé avec une SP1200 et qui aujourd'hui encore restent pertinents, font de la musique qui attire les gens et tu vois?
T'as cité le bon nom, mais après il y en a d'autres. Tu vois, Jazzy Jeff, il continue à faire du son. Tu vois, il y a des mecs à l'ancienne qui continuent à faire leur son.
Mais du coup, ils font du son à l'ancienne.
Je sais pas parce que
Guts
a fait des albums uniquement avec une MPC. Il a fait le Bienheureux uniquement avec une MPC.
C'était la 4000, mais après la 4000, elle date maintenant. Mais effectivement, tout a été fait sur la 4000. Ouais. Mais après, ça veut rien dire.
Une fois que tu coupes le truc de ce qu'on disait justement tout à l'heure de la nécessité. Ben là, pourquoi tu vas faire l'idiot à te... Enfin, tu... soit c'est parce que t'as voulu cette saveur-là et compagnie, mais là, moi, par exemple, moi, j'ai un rack avec le 1000, le 950, et j'utilise, par exemple, des fois sur un kick seulement, parce que je sais que c'est parfait, je leur balance moi, je bosse avec Pro Tools, donc je leur balance là-dedans et je fais ma ça. Si tu veux, ça sert à rien d'aller te remettre dans le truc.
Non, c'est pas ça, c'est que...
Là, t'as un mais outil qui est... un milliard de fois.
Non mais en fait, quand tu lis des interviews de Roger Lynn, justement, lui, il explique que la MPC pour lui, c'est l'instrument du turfu. C'est-à-dire que au moment où il le fait, donc fin des années 80, il dit ça sert à rien d'apprendre du violon. Jouer avec cette machine, en fait, c'est un instrument, tu vois. Et donc, de la même manière que la guitare, personne n'a remis en cause le nombre de cordes d'une guitare et la forme qu'elle a depuis 300 ou 400 ans, tu vois. Donc je me dis si t'as appris sur une MPC, si vraiment l'idée de l'inventeur c'était d'en faire l'instrument du futur, c'est-à-dire que normalement, demain t'arrives avec t'as tes fondamentaux MPC, on te file une machine de Native Instruments, tu t'en sors, tu vois.
Avec machine par exemple, avec tout ce qu'il y a des pads. Et tu utilisais de la même manière que avant.
Quasi.
Sauf que là, pour le coup, tu peux avoir, comme tu disais, 2h20 en appuyant sur ce pad, 4h, là, j'exagère le truc, mais si tu veux, le principe en soi...
C'est des langages, en fait. Langages qui
diffèrent un peu. L'Ormac a eu, à un moment, il m'avait fait voir la machine, il avait la Isla 2400, qui était une machine où le mec avait fait un crowdfunding pour cette machine, ils ont mis du temps à l'avoir, et en gros, c'était une machine qui synthétisait toutes les autres. Donc t'avais là, c'était une ESP avec une MPC, tout était dedans avec un temps de sampling hyper limité. Ben il l'a vendu et il s'est racheté et là parce que récemment Rossum a ressorti encore une édition limitée de SP 1200, il a racheté ça finalement.
Ok.
Mais tu vois en fait la vraie, pour revenir à ta question, la vraie on va dire pas différence, mais il y a un truc avec le beatmaking actuel qui est très lié à l'ordinateur. Et comme je disais, à juste titre, sinon on avait eu je pense qu'on n'aurait même pas calculé une MPC. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'aurais pas été me casser la tête. L'MPC, c'est encore autre chose. T'as l'aspect pas des compagnies où il y a un intérêt.
Je pense à Machine de Native Instruments, qui est une espèce de MPC contrôleur, et qu'en fait que tout le monde utilise encore. Enfin, en tout cas, il y a une époque énormément.
Et c'est pour ça qu'énormément de claviers maîtres ont rajouté des pads, etc. Alors qu'en réalité, ça n'a pas trop de sens sur un clavier maître d'aller taper. Que MPC, c'était vraiment, il a trouvé le format parfait. Genre Music Production Box, c'est ça dans
Center.
Center, ouais, voilà. Et du coup, t'as tout le truc sur ton machin et tu peux t'auto-suffire si tu veux.
Parce que tout est là, quoi.
Mais l'avènement du software et de la puissance des computers a amené à la musique. Alors autant les machines old school ont amené à la musique des mélomanes, on va dire, autodidactes ou en manque de moyens, comme on dirait, mais des gens qui avaient cette fibre, autant l'avènement des computers a amené des ingé-sons à la musique. Où t'as énormément de mecs qui faisaient pas de son et qui se disaient, mais putain, en fait, maintenant, tu peux déjà acheter des mélodies. C'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas sûr. On n'est pas exactement sur le même type de.
Mais en termes de démocratisation, par contre, de l'accès à la musique, de donner envie à plein de gosses de faire de la musique, le fait que ça soit facile d'accès, ça c'est génial. C'est un truc dont on peut se féliciter.
Enfin, facile d'accès.
Je trouve ça plus ludique.
Il faut l'ordinateur.
Tout
le monde a un ordinateur aujourd'hui. Beaucoup de gens.
Et tu penses pas que c'est plus ludique
de taper sur un truc
machin, parce que j'ai l'impression c'était le concept des dernières MPC, petites et tout ça.
Mais tu peux pas le faire.
Pas trop rush, tu tapes et tu fais ton.
Tu peux pas le faire sur l'ordinateur familial ou sur ton téléphone, etc. Que tout le monde a dans tous les cas. Tu dois acheter une machine spécifique dédiée. Il faut que t'aies la famille qui dise ok, tu veux faire de la musique, on achète une machine qui fait que de la musique, etc. Tu vois là, c'est vraiment avec ce que j'ai à la maison, un iPhone, un téléphone. Il y a quand même beaucoup de familles qui ont des ordinateurs ou au moins un téléphone puissant.
C'est pas faux ce que tu dis. Après, même il y a l'avènement de l'intelligence artificielle et tout ça, mais ça vient briser quelque chose en fait, un peu. Ça vient justement briser ce que j'appelle une forme de magie. Et là, c'est trop en fait. J'ai envie de te dire, c'est trop. Il y a trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ouvres tes nouvelles MPC. Tu peux acheter des milliers de cordes, des milliers de drums, des milliers... Et en fait, t'es paumé là-dedans parce que c'est trop.
Et c'est pour ça qu'après, tu vas sur Reddit et des gens qui disent je viens d'acheter une MPC Live 3, vous me conseillez quoi comme plugin en fait? Mais genre 3 et c'est tout, parce que sinon il y en a trop.
Mais alors, tu vois, à côté de ça, tu sais, je ne sais pas si vous avez entendu déjà le duo Larage Damiani qui avait quelques années, là, c'est Sébastien Damiani et Faf Larage. Et comme Sébastien Damiani est compositeur, lui, avec des plugs de haute qualité sonore, de machin, il recomposait, mais vraiment à la note. Tu vois, un truc.
Ah ouais,
Il prenait pas des cordes comme ça, il recomposait ses propres cordes pour que ça sonne vraiment comme 50 violons qu'il pouvait pas faire venir, évidemment.
Mmh. Mais en tout cas, l'héritage de toutes ces machines-là, tu le retrouves, parce que c'est pour ça que je te parlais de folders qui se vendent et compagnie, parce qu'énormément de gens font du puzzle. Le côté Fruity Loops du début, c'était un truc à l'époque où nous, quelque part, on critiquait un peu le truc, parce que tu prends un machin, tu mets là, tu mets un machin, mais t'as rien. Nous, on avait ce truc-là d'aller chercher, on savait que dans, il parlait dans Gap Band, tel le beat, il frappe hyper fort, je vais le mettre là, je vais superposer un autre pied dessus, ce truc-là, cette espèce de salade pour avoir une identité dans les sonorités de beat, etc., ne se faisait plus trop, puisque c'était une sorte de puzzle. Le puzzle, maintenant, il est fait à l'extrême. Et t'as des mecs qui peuvent... En récupérant des drums, des machins, tout partout, mettre tout ce qui ne vient pas d'eux en réalité. Et là, pour le coup, c'est l'agencement qui vient d'eux. Ouais. Alors, certains sont des tueurs, c'est pour ça que pas mal d'ingé sons sont dit, tiens, pourquoi pas, parce qu'eux savent faire sonner mieux que nous, mieux que les beatmakers à la base. Mais dans les drums, t'as très, très souvent SP style, kick SP, machin, etc. Ça veut dire que l'héritage de toutes ces sonorités qui sont retranscrit dans le livre à travers les machines, il est même aujourd'hui jusqu'à dans les dossiers que les beatmakers font tourner, quoi. T'en as un milliard avec MPC 60, c'est genre gage de grain, gage de lourdeur et tout ça, et t'écoutes le truc, en fait en général, en plus, souvent, c'est de l'arnaque. C'est juste un truc. Il l'a réenregistré en 12 bits ou voire même en truc. Tu dis, mec, c'est pas du tout le.
C'est pas du tout les sons, quoi.
Pour terminer, Musul, le dernier mot. Avec Cockroach, une frustration autour du bouquin, un truc que vous auriez aimé faire, une machine que vous auriez aimé traiter, j'en sais rien. Alors, pour le prochain.
La frustration, c'est qu'on avait plein d'idées qu'on n'a pas pu faire rentrer dedans parce qu'on n'avait pas assez de pages. Donc il y a plus.
C'est quand même pas mal, hein.
Ouais, mais sur le 950, il y a beaucoup plus de trucs sur les exemples de tout ce qui a été fait avec la 950. On a été obligé d'en enlever pas mal. Il y avait aussi, on avait des idées de faire des fiches bricolage. Avec des pour comment faire un sample, tu vois, des espèces de tout un tas de conneries, quoi. Il y avait aussi tout un texte sur les galères que peuvent amener le sampling quand c'est pas déclaré. Il y a plein d'exemples comme ça, donc c'est ça, voilà, on est quand même super content du truc. Allez, si je devais dire une frustration, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir DJS.
Voilà. Je connais pas bien DJS.
DJS, c'est le premier DJ de NTM sur Authentic et sur aussi qui appuie sur la gâchette.
On voit la purée.
Puis après, c'est les psychopathes.
Qui a fait le monde de demain. Et qui a fait Jorap.
Bon, en tout cas, vous aimez la musique, vous avez une petite bibliothèque à la maison, vous achetez ce livre. Parce que franchement, c'est hyper bien.
Non, aussi la frustration, c'est tous ces beatmakers américains avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai un peu rigolé des fois, tu vois, genre Africa Islam. Et pour au final, il s'est rien passé. Il était en Thaïlande quand on discutait. Enfin bref, et au final, non.
Mais ça veut dire qu'il y a de la matière pour faire un petit volume 2 ou quelque chose.
Il passe quand même de P-Funk, l'Odyssée de George Clinton. Après, alors il est passé par Sylvia Robinson aussi. Ouais, ouais. Et puis là, je crois qu'il aime bien les nouveaux challenges. Ouais, il partira sur autre chose.
J'en ai d'autres.
Il y a toute une.
Ouais, et Cockroach en a d'autres, puisque lui, en fait, il va sortir courant 2026, normalement, un album de rap. Français, ouais. Avec beaucoup de grands noms du rap français qui sont venus dessus, quoi. Petit truc conceptuel.
Vous savez, on a une tradition dans ce podcast, c'est de terminer sur des recommandations.
Oh, putain.
Donc c'est un morceau que vous avez envie de faire découvrir à nos auditeurs, que ça soit un de vos classiques, un truc que vous avez adoré récemment, peu importe. On peut vous laisser le temps de réflexion. On peut commencer avec Daz éventuellement, à part si vous avez déjà quelque chose en tête.
Mon dernier kiff, c'est le De La Soul produit par Pitrock.
Dis-nous bien devant le micro.
De La Soul, là, produit par Pitrock, là, le dernier, là, qui vient d'y
aller. Attends, bouge pas.
Je sais pas si tu vas pas le trouver sur.
Je vais te dire la toute dernière sortie.
Déjà sur les plateformes. Bon, ça.
Donc on s'écoute The Package De La Soul, c'est celui-là, produit par Pitrock, effectivement. Ok, cameras ready. Everybody get their lunch. Let's get this thing started, people. Come on. Partners, you got your lines. Roll cameras, everybody, roll cameras. Let's make this a good one. And action. Allies
finest back at it. Premium soul on the rocks, the package. A revival and conscious survival. The content is beyond bliss and idols. Use scar tissue to wipe tears, hiding amongst the blood and sweat. And don't forget the gains here to face ya. And some wanna take it back to when a B-boy first became a C-note chaser. Nah, we staying right here. Talk less, listen more, that's the saying right here. Those who wanna try us, play it right here. Step to us with a Goliath, got a David right here.
I need the savior right there, yeah. Recognize the savior, the king send a string to whack the celebrators. The difference between doing the job or just your nature. Understand birthright over labor. Still working like two thumbs up. Be mouse humble if you two crumbs up. Because I seen sun go grimace in a smile. And I ain't heard a lyric go dive in a while.
We jump right in the deep end like we don't pretend. Serve heavenly high like gospel and weed pens. We stay devout. Career's not carbonated, so we won't fizzle out. Fizzle out, fizzle out. No
good day, good day. Alright, let's set up for the next one. A little less lights on this one. Basket looks just fine, just fine. Everybody in the mark.
Ok, De La Soul, The Package. Merci Faster pour cette reco. Musul, Nick Fury, vous avez une idée?
Ouais, moi un truc que j'ai... Alors tu vas peut-être halluciner, mais l'album de The Game,
okay.
Le documentary, je l'ai écouté pour la première fois cette semaine.
Ah ouais, ouais. Pourtant c'est un classique.
Bah écoute, il y a des fois des trucs comme ça.
Okay.
Et parce qu'en fait, je suis tombé sur le clip de Dreams. Et en fait, j'avais entendu ce beat une fois dans une émission de radio des mecs qui parlaient, je savais pas ce que c'était. Et là, j'ai entendu, je fais putain, c'était The Game. Du coup, bon, j'ai acheté l'album.
Okay.
Et ce truc, donc Dreams avec un beat de Kanye West, que je déteste de base en plus. Quoi. Non, mais pas le mec artistiquement, je veux dire, le mec est fou et il est insupportable. Et du coup, voilà. Dreams, The Game, ouais.
Et ben, on s'écoute ça.
Ouais.
Ça
alors.
Woke up out that coma 2001. About the same time Dre dropped 2001. 3 years later, the album is done. Aftermath presents Nigga With An Attitude, Volume 1. Rap critics politicking, wanna know the outcome. Ready to die reasonable, doubting doggy style and one. I feel like Pac after the Snoop Dogg trial was done. Dre behind that G-Series and all eyes on me. I watched the death of a dynasty, so I told Vibe magazine. Working with Dr. Dre was a... I had visions of making a classic. Then my world turned black, like I was staring out of Stevie Wonder's glasses. It's kinda hard to imagine, like Kanye West coming back from a fatal accident to beat making and rapping. But we the future. Whitney Houston told me that, and it's gonna take more than a bullet in the heart to hold me back.
Rushing in this 40 ounce, letting the ink from my pen bleed. Cause Martin Luther King had a Aaliyah had a
Dreams, a game. Ouais,
alors qu'avec une bonne boucle de soul comme ça, c'est une prod pour Ghostface Killer. Ça.
Non, parce qu'il n'y a pas assez de voix. Le rap sur les couplets du sample.
Ahmed, Nick Fury.
Bah écoute, moi, l'un des derniers morceaux que j'ai écouté en boucle, parce que je crois que c'est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est l'un des mecs du groupe La Tirx. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des mecs de la Bay Area, de San Francisco.
Okay.
Toute la team Quantum Spectrum avec DJ Shadow et tout ça. C'est un mec qui s'appelle Lyrix Born. Okay. Donc Lyrix, c'est plus loin. Born, et le morceau c'est Shades of Jade, je crois, et c'est pareil dans la, vu qu'on est dans la vanne, dans la veine funky et compagnie, t'as grave ce côté là et c'est l'un des, faudrait en parler en long en large, mais c'est l'un des mecs qui est en réalité l'un des meilleurs lyricistes que en tout cas selon moi, que la, en termes d'écriture, c'est un tueur à gages, mais okay. Comme c'est chantonné, etc., etc., ça passe comme si c'était juste un chanteur, etc. En tout cas, je vous laisse découvrir le titre. Et le titre est vraiment charmé et ultra smooth à souhait.
Ok, Shades of Jade, Lyrix Born, c'est parti.
Now people don't know all this, but behind the performance
nonsense and those poems I spit on the showmanship, those cold ass fits. I struggle with extreme loneliness, overtures and bids to connect with folks go unnoticed and miss. Try holding it in, play close to the vest. When I scroll through my phone, I notice all my closest friends disappeared like the ocean mist. The light along the coast that grows so dim. How do I cope with it? All those cliche ways you can think of. Drink up, one cup, two cups, 13 cups. Link up with people beneath my frequency. My inner circle got inner circles, got inner circles like a tree trunk. Thirst to be perfect, be worthy, be enough. Hard to keep up, I just keep adding beads on the screen till I'm freed up. And one day I'm healed up, hanging uncertainty to free. But peace takes effort and we ain't guaranteed love. Pretty as I am, witty as I am, some can't embrace what ethnicity I am. Not everybody ready to mentally expand and get beyond whatever barrier they in. Got called racial slurs every day from the age of 4 till I was of age to pull that creme liqueur. By then my spirit was scraped and sore. I thought pain was the cure.
Ça tue ça. C'est trop ma vibe.
C'est un tueur, il fait, c'est une sorte de Snoop en ultra lyriciste, quoi. Mec, l'âme. En termes de multisyllabique, compagnie, c'est un vrai, vrai, vrai découpeur. Et là, cette vibe hyper showman, funky et tout ça, donc c'est ne serait-ce que rapper avec le fond de timbre de gorge, c'est assez spécial et c'est un tueur.
On dirait du Sugar Free avec deux octaves en moins.
C'est ça.
Quoi.
Ouais,
il est bien de produit, en fait, c'est bien produit.
Ouais, ça sonne fat. Daz, ta reco.
Yes, bien sûr, la reco. Alors, un morceau qui s'appelle Ricky.
Ok.
De l'album Goldfish sorti par Hit Boy et The Alchemist. Et en fait, il y a tout là-dedans. Ça sert à rien d'écouter autre chose, en fait. Ça... Voilà. Enterrez-moi avec ça, de toute façon.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Just like J'ai chez plein. J'ai chez plein. Yeah. Two-parent household, yeah, for us that's a fantasy. Watching boys in the hood, I relate to the agony. Like stealing from the stove, coming from broken families. When Ricky get popped at the end, that scene still be sad to me. I was on La Venezia with Diamond and Anthony up in Altadena, watching gangsta Crips and dope boys hopping up out of Beamers. They shot at Westside, that's when he had to drop a heater. Fresh out of church on Easter, I'm in my Sunday best, praying I could one day rest. This shit be tiring, we wasn't even sharing beds. We had pallets on the floor, I swear them was the days. Back in the A, I met a nigga named Earl Hayes. These hoes will make you crash out, fuck what the world say. A random Thursday, it could turn to your worst day. Found out a nigga fucked my bitch, I swear that shit was hell. Damn near it took me 4 months to get back to myself. I'm just trying to do my shit and pay my bills with this music. Go to Bentley from Buick, studied it, still was confusing. These rappers cannot get the files till I see a wire. These niggas busters and they burnt out like they're eating fires. Moving too casual, you can end up a casualty, dog. The pain, grief, and perseverance, yeah, I mastered them all. When it disconnected the terminal, the battery off. Ain't gotta prove the lights is working, cause I'm actually on. I'm breaking out from this emotional incarceration. This run is personal, this verse right here is confirmation. I tailored my life, went through so many alterations. I'm just trying to provide my seed with a solid foundation.
Bien smooth ça aussi.
Très smooth, c'est vraiment Hit Boy et Alchemist encore une fois. Un beatmaker légendaire avec un des meilleurs beatmakers de la nouvelle génération. Les deux ensemble, c'est du feu.
C'est vrai que c'est un sacré combo. Et ouais. Ça, c'est quoi? C'est un album, du coup?
Ouais, 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 ils ont sorti un album. Et les deux rap, en fait, ouais, parce que normalement, c'est des prods. Et...
Mais tu vois, sur ce type de prod, d'ailleurs, que t'as passé le titre que j'ai fait pour Grand Bazar en tout début d'émission.
Oui,
là,
ouais, le... enfin, c'est pas dans l'émission, on l'écoutait ouais, avant, mais ouais. Ouais. Ouais,
on l'écoutait avant. Ouais.
C'est ouais, dommage, parce qu'il était très bien aussi.
Il est hyper bien, ce morceau.
Mais dans ce type de beats qui sont... Par contre, très récent, où c'est basé sur une boucle où il y a très peu de beats, voire ouais, même pas.
C'est du drumless.
Voilà, ouais. du drumless. Ouais. Ce qui est vachement intéressant d'un point de vue. J'en parlais dans une de mes émissions l'année dernière sur Move. C'est pour un rappeur, les points de repère sont complètement différents. C'est pour ça que parfois, t'as même l'impression que le mec est un peu.
Il n'est pas dans les temps.
Et où il aurait pu te faire 10 prises différentes. C'est un truc assez intéressant à voir. et ça facilite la tâche pour le beatmaker. T'as pas besoin de beat, la boucle elle tourne toute seule.
C'est clair que ça tourne vraiment tout seul.
Ah ouais, c'est trop. Ouais, c'est... Mais après, il y a beaucoup de variations, de filtres, ouais, de machins.
Et puis il faut bien la choisir.
Switch, ouais.
Parce que mine de rien, tu peux vite en mettre plein, mais celle qui tourne et qui te saoule pas.
Ouais, ça c'est pas évident.
Ça, c'est pas évident. C'est très fort. Avoir un petit récupérer le côté thriller. Thriller étant la ligne de basse que tu peux laisser tourner 4 heures d'affilée. Bam, 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 et tu te lances. Personne ouais, va dire, ah, ça y est, ça commence pas à me saouler. Mais ça fait 50 ans que le truc qui tourne ça et ça saoule personne.
Après, Alchemist, il est fort sur les plus.
Très, très fort. Très, très, très fort.
Oui, oui, franchement, le morceau Grand Bazar, la caution, effectivement, ouais, elle écoutait.
Très chouette, hein.
Ouais. Et alors, ben, Salman, j'hésitais entre deux trucs et je vais préciser un truc un peu plus pop, même si c'est un mec qui peut être aussi dans un esprit rap. C'est Ino Casablanca. Je sais pas si vous avez entendu parler d'Ino Casablanca, qui est un mec qui vient de sortir son premier EP, qui commence à bien faire parler de lui. Et l'EP est franchement hyper bien. Un mélange de plein d'influences, c'est hyper libre. J'aime beaucoup, et le morceau s'appelle Moula Solitude, et vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez.
Ma poitrine fait des tournants, que je sois avec baby ou solo, même proche de toucher le gros lot, je porte en moi 100 000 mots. C'est pas glorieux de faire de son mieux. Je porte en moi 100 000 mots. Je prie mon Dieu, témoin des immondices. Soulage la peine qui dort en moi. Maman, j'arrête les études, même si ton cœur est vampire. Je pars faire des écus pour me sentir moins mal qu'hier. J'ai pris l'habitude. Pour me sentir moins mal qu'hier. On a grandi avec moins de câlins qu'un médian. Si je te passe mon cœur, c'est pas pour de la dépanne. Toi t'es qu'un trou de balle, sponsorisé par du vrai vocal. J'mets long donc c'est pareil. Combien pour moi 35 heures avec week-end et galère. Sa mère me justifiait auprès d'une RH. C'est pas la boîte de ton père que je vais foutre avec Caroline et Gérard. Après le taf, maman, j'arrête les études, même si ton cœur est en pierre. Je pars faire des écus pour me sentir moins mal qu'hier. J'ai pris l'habitude.
Je t'ai vu rire au rythme un peu.
Là, il a cassé des chevilles, ton artiste là. J'attends, et puis paf, ça part en Philippe Laville.
Une corrida aux Antilles avec un torero algérien.
Vous comprenez rien. Vous êtes trop vieux.
Non, c'est mais c'est ça. Marrant, c'est l'hybridation.
Toi, on est peut-être trop vieux.
Ouais, je pense.
Non, mais c'est l'hybridation, ça marche.
Il y a une vraie liberté, une vraie tentative. Moi, je trouve ça hyper bien.
Ouais. Ah ben là, il y a complètement une hybridation totale. Au début, ça sonne un peu comme du rail, un peu variette. Ouais. Ensuite, ça part dans le truc des îles. Tout ça. Mais dans, on va dire, si on est objectivement, si on analyse de manière objective dans le type de musique actuelle, c'est
travail.
Top, c'est bien fait.
Le mec est frais, quoi.
Et est-ce que c'est. Moi, personnellement, c'est pas le type de musique que j'écoute. Donc, j'ai pas.
J'aime vraiment ton côté diplomate.
Ouais. Non, mais c'est
la, non, parce que c'est la réalité.
En fait,
le pays, il est trop bien, c'est indéniable, tu vois. Non, après, on aime ou pas.
Tu vois, parce que lui, il est capable de dire le pays, il est trop bien. Ça, ouais. Et moi, je suis même pas encore capable de me dire, parce que c'est tellement loin de ça. De la même manière, si tu m'as dit, comparer deux tisses de Transgoa. Tu vois, tu es là, je sais pas en fait. Débrouillez-vous, tu vois. Mais le titre, objectivement, dans le type de morceau actuel assez pop, etc., il est ultra bien réussi. Il a des vibes. Non, mais tu sais, des vibes assez originales dans l'espèce de break là. Je sais pas c'est quoi dans le truc. Donc non, bravo à lui, mais dans
franchement,
son style,
c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais je dis ça aussi de trucs intéressants.
Mais il faut vous choquer un
mais
peu.
Mais oui, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Merci Salman. Merci.
Musul, je le voyais atterré.
Enterré ou atterré?
Les deux.
Il a été enterré, atterré, je pense.
J'ai envie de me manger une bonne assiette d'amiante.
Bon, en tout cas, merci d'être venu dans l'émission.
Merci de l'invite.
Musul, c'était Nick Fury, cool. Faster J. Plaisir.
Merci les gars, c'est très chouette.
C'est à vous. Ouais. Est-ce qu'on peut d'abord, on peut vous retrouver, écouter votre musique déjà, Nick Fury, Faster J.
En prépa, moi, perso.
Tu prépares des trucs?
Ouais. Il est sur un projet.
Il est sur un projet. Musul, bah, le livre.
Ouais,
Here Comes the Drums.
Avec Daco Croche.
Avec Daco Croche. Avec Daco Croche. Bien sûr.
Il faut aller l'acheter, c'est trop bien.
Bah ouais.
Et puis. Et puis
le meilleur cadeau de Noël. Ça se trouve partout. N'importe où.
Ouais, partout. Okay. Partout.
Et franchement, 35 euros.
Ouais.
Il y a 250 pages.
Ouais, moi,
le papier est épais, c'est bien relié.
Ratio nombre de pages, nombre d'euros, franchement, c'est worse. Moi, je.
C'est bien illustré.
Ouais.
Il y a même Hightech qui a illustré une page.
Ouais.
Incroyable.
Ah, j'ai vu les photos de tout le monde.
C'est vrai que c'est un très beau livre et c'est ultra cool même d'avoir à investir ce sujet-là. Enfin, je trouve que c'est vraiment un truc.
Et alors, si vous l'êtes vraiment stylé,
intéressant.
Vous achetez le livre, vous le lisez avec du Hino Casablanca derrière. Ouais. Et là, vous êtes au top.
Écart,
mais non, pas tant que ça.
Ah, c'est Jean-Claude Van Damme entre deux camions. Là.
Le gars ne veut pas lâcher la fin.
C'est la musique.
Bah, c'est un découvreur.
Bon, et merci évidemment à François qui monte cette émission.
Merci à la bouclette.
Merci à la bouclette aussi. Sam, Flav. Alexis, Flav.
Et c'est tout.
Iris, elle est partie avant. Qu'elle a installé, on sait pas. Non,
non elle est partie, mais bon, ok.
Merci à vous en tout cas. Merci à Thomas évidemment de soutenir cette émission. Je vous pose pas la question, Faster, Nick, vous avez déjà évidemment acheté des choses chez Thomas, j'en suis persuadé.
Les liens ils tombent direct, mais je pense qu'il faut remercier un autre mec parce qu'il a été cité 14 000 fois, c'est Roger Lynn.
Ah,
pour le coup, on fait cette émission du jour parce que le mec il a pas lâché jusqu'à construire sa MPC. Donc
il est là.
Et bah, merci Roger Lynn. En plus, je suis sûr qu'on peut trouver des produits créés par Roger Lynn chez Thomann.
Bien sûr, évidemment.
Et un petit big up à Mouzoul et son assos.
Ben oui,
voilà, quoi. Bien sûr.
Monte le son à des discount Thomas à nous faire tourner.
C'est pas le premier
pas.
À essayer.
Même moi j'essaye, hein, donc bon voilà.
En vrai, toi t'as le droit.
Il y a quand même des conditions. Hein, conditions
mais c'est celle de tout le monde.
Oui, c'est vrai.
On fait ce qu'on peut.
Oui, c'est vrai.
Bon, merci à vous aussi de nous suivre, nous écouter. On se retrouve dans 15 jours. Nouvel invité, nouveau sujet. Mais ça sera forcément bien.
Évidemment.
Ciao.